Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en octobre 2024 et vous écoutez le pour et le contre, une émission proposée par Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Et donc, retour de ce format. Alors, si vous avez écouté les hors-séries, enfin le hors-série de cet été, vous savez que c'est un format où, c'est un format où parfois c'est un peu difficile de trouver du monde. C'est pas le format le plus simple, disons, comparé à d'autres, hein, t'as joué à quoi ou quoi. Et il est là quand même, ça veut dire qu'on a quand même trouvé normalement, si tout va bien, au moins assez de jeux pour tenir la saison, hein, puisque on travaille un peu l'été quand même, même si ce sont les vacances. Et donc on est là, donc je rappelle, si jamais, j'ai déjà salué mes partenaires du jour, après je vous rappellerai c'est quoi le format, mais pour accompagner ici, moi je serai l'arbitre, mais les deux participants aux deux côtés du ring, cet épisode, ce seront Pionfesseur. Salut Pionfesseur, t'es un habitué, tu connais, t'as déjà mis la sueur sur ce ring.
Salut, effectivement je sens encore l'odeur de ma sueur sur ce ring.
Ouais, tu vois les gouttes de sang des adversaires et tout.
De Five Tribes, je crois que c'était avant.
Ouais, le dernier c'était Five Tribes avec Beno et Fix.
Je sens l'odeur des meeples de Five Tribes.
Ouais, c'est ça. On t'appelle l'assassin depuis. En face de toi, un nouveau venu à la fois dans le format et dans l'équipe. Et c'est la première fois que vous l'entendez, même tout court, puisqu'il rejoindra l'équipe des chroniques, comme tout nouvel arrivant ou nouvelle arrivante dans l'équipe. Ça, c'est sa chronique, vous l'entendrez fin octobre, mais vous avez le privilège et l'honneur de l'entendre. Il a vraiment pas hésité, tu vois. Il est arrivé, il se dit, ouais, moi j'arrive dans Proxy Jeux, je vais mettre une taloche à Pionf. Donc je fais un pour et le contre. C'est Bartouf. Salut Bartouf.
Salut à tous.
Prêt?
Ben oui, écoute, je me suis lancé contre le Pionf. Je sais pas si j'ai bien fait, mais on verra.
Oh, écoute, on fait toujours
un peu intimidé quand même.
Ouais, oh, il faut pas.
Challenger.
Il faut pas. Donc, il y aura peut-être un truc sur Challenger cette année, on ne sait pas. Non, je crois pas qu'il n'y a pas assez de contre.
Non,
tout le monde
pas,
a bon goût chez Proxy Jeux.
Tout le monde sait que tout le monde a bon goût chez Proxy Jeux. Ouais. Tout le monde sait que c'est un bon jeu.
Mais donc, le pour et le contre, c'est notre format où effectivement, vous l'aurez compris, hein, avec cette espèce de petite mise en scène de match de boxe, etc., dont je suis l'arbitre, comme la dernière fois d'ailleurs. C'est, en gros, on prend un jeu. Pour l'instant, ça devrait rester un jeu cette saison. C'est l'occasion d'en discuter avec quelqu'un qui n'aime pas le jeu et quelqu'un qui l'aime. Et selon certains axes, on en discute, les gens opposent leurs arguments, expliquent leur ressenti, le pourquoi est-ce que chez eux, c'est les mêmes éléments qui vont provoquer un ressenti positif, tandis que chez l'autre, ça va être un ressenti négatif. Bref, on y met de nous, hein, parce que c'est notre vécu, et on argumente. Ce n'est pas que on y met de nous. Et donc, ce mois-ci, pour le premier de la saison 15, ce sera Dominion 2. Ah non, c'est pas celui-là, merde. C'est l'autre Spiel des Sierreuses de Vaccarino, c'est Kingdom Builder. Là aussi, je crois que Dominion n'est pas dans la balance pour le pour et le contre. Hein. Pour l'instant.
Trop de pour.
Ouais, trop de pour. Quand vous avez parlé de Vaccarino, étonnamment, vous avez pas parlé de Kingdom Builder, mais de Dominion, justement. Incroyable. Incroyable.
Tu parles dans Sortons le grand jeu.
Ouais, dans Sortons le grand jeu, et bizarre, hein, vous auriez pu se dire, ouais, Vaccarino, ouais, il faut absolument qu'on parle de Kingdom Builder. Et non, vous avez choisi Dominion, ce petit truc qui a inventé le deck building, pourquoi?
Ouais, trois fois rien, ouais.
Ouais. Donc ça, on va en parler. Donc je rappelle, il y aura une rapide présentation du jeu, on rentrera pas en détail dans les règles, s'il y a des points de règles qui sont intéressants pour le débat, on les évoquera. Mais on fera un rapide pitch. Sans doute mieux que celui que font les éditeurs. Et ensuite, selon les axes, on discutera. Mais avant, on a des gens à remercier, puisque ça fait partie de ce format-là. Les petits remerciements. Pionfesseur, on a toujours le même sponsor. Est-ce que tu veux nous le citer?
Oui. Mais oui, notre sponsor, c'est La Caverne du Gobelin, qu'on remercie, qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Mais c'est également un site de vente de jeux de société en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
Et merci donc La Caverne. Et on va remercier aussi les donateurs et donatrices, Bartouft. Mais donc, je te laisse faire ta première citation. Alors, la semaine dernière, c'était Kurtz qui, lui aussi, décidément, les nouveaux venus se lancent dans des formats où parfois les gens mettent plus de temps. Tu vois, ils s'installent avec leur chronique et puis après, ils participent à d'autres émissions en se disant « Ok, maintenant, je me sens assez bien dans l'équipe. » Non, Kurtz, il a fait les jeux du mois la semaine dernière. Toi, tu fais le pour et le contre cette semaine. Donc, c'est l'occasion aussi de vous frotter à la prononciation des pseudos des donateurs et donatrices. Et je te laisse... ceux de ce format de cette semaine.
Eh bien, c'est parti. Eh bien, nous remercions donc les donateurs et donatrices que sont Pyrus, Siouveil, Philippe Leray, Benjim, Wallring, Tespios, Bobby Fada, Fendoel, Olfen W, La Famille Guyot, Happy Chat, Max Rioc, Ricky, Olive et Eightpool.
Voilà, donc si vous avez votre pseudo mal prononcé, vous pouvez @Bartouf sur Discord. Voilà, c'est vers lui que vous pouvez vous plaindre. C'est un peu le bisu gentil. Hein. Et comme d'habitude, nous, ce que Pionfesseur il aime, c'est les commentaires. Ça, tu le sais, Bartouf, hein, il faut lâcher les commentaires.
Ah bah oui. Ah bah, ouais. Et puis j'en ai mis.
Ouais, ouais, mais tu sais que la semaine dernière, c'est pareil, dans les jeux du mois, Kurt avait un commentaire à lui, parce que c'était avant que vous soyez dans l'équipe, et bon, ce qui n'empêche pas de mettre des commentaires, hein, mais du coup, il a pu lire son propre commentaire. Donc, il n'y avait pas eu d'émission, justement, en juin 2023, du fait des difficultés, parfois, de réunir du monde autour d'un jeu, comme je le disais, on le disait dans le hors-série, et comme je le disais en début d'émission. Donc, on revient sur l'émission d'avril, où on parlait, effectivement, tu l'as dit, Pionfesseur, tout à l'heure, de Five Tribes, de Bruno Catala, où Beno FX représentait le camp du pour, tandis que tu représentais le camp du contre. Depuis, sachez que Five Tribes est arrivé sur Board Game Arena, ce qui m'a donné l'occasion d'y rejouer et de me rendre compte que, effectivement, tous les éléments dont on a parlé, que ce soit toi comme moi, Pionfesseur, du côté du contre, du côté un peu calculatoire, ça m'était revenu dans la face et que je pense que je l'aime moins encore aujourd'hui qu'à l'époque. C'est la vie.
Alors que BGA devrait plutôt aider à ça, parce que ça te révèle un peu certains coups parfois, enfin vite fait, tu vois, mais tu vois, quand tu sélectionnes des trucs, ça te montre un peu les possibilités.
Ah ouais, parfois, ouais. Ouais.
Bon, donc, peut-être pas pour Five Tribes, parce que vu que tu dois égrainer tout
ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. En tout cas, ça peut pas te le faire avant que tu aies sélectionné un truc, donc de toute façon. En tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était intéressant, etc. Les discussions, c'est Julien qui a dit que ce qui était intéressant, c'était de dire que, en fait, on parlait, enfin, vous parliez l'un et l'autre des mêmes éléments, mais juste que. Un même élément, évidemment, ne produit pas les mêmes réactions chez les gens. Et que du coup... Et lui, il retenait surtout l'enchère, en fait, comme cœur de Five Tribes, puisque c'est un peu là que tout se décide, puisque après, il n'y a plus qu'à analyser et puis faire son coup, au lieu de prendre vraiment des décisions, peut-être. Et lui, il trouvait que l'enchère était vraiment le focus du jeu et le moment où il y avait toute l'attention, mais que c'était aussi un peu froid et calculatoire des arguments que tu avais dit, Pionfesseur, sur le jeu de manière générale. Il disait qu'en fait, l'enchère était un peu le seul moment qui était un choix intéressant. On reviendra sur l'idée de choix intéressant dans notre émission. Hein. Mais que c'était quand même trop plan-plan pour lui, cette phase-là. Bartouf, on a découvert que tu venais de découvrir... Enfin, tu venais pas. Mais en tout cas, c'était un commentaire où tu disais « Hey, j'ai découvert Proxy Jeux, du coup, je vais en faire partie. » Enfin, tu n'avais pas dit ça dans le commentaire. Mais c'est ce qui est arrivé,
finalement.
Non,
je n'avais pas dit que je voulais pas. Mais oui, c'est ça.
Du coup, tu disais que Proxy Jeux, c'est génial. Pour faire court, hein, je te paraphrase. Tu voulais un point sur... sur un commentaire sur l'importance du matériel dans les sensations de jeu. Alors, je vous préviens tout de suite... Aujourd'hui, c'est le pour et le contre sur Kingdom Builder. Parce que je pense que dans ce que tu as écrit, il y a plein de choses où on pourrait en parler dans un dossier et tout, sur certains termes que tu as utilisés. Ou je pense qu'il y a plein de trucs où moi, je suis pas d'accord. Mais aujourd'hui, on va parler de Kingdom Builder, mais je te laisse du coup développer un peu ce que tu as dit. Et on va éviter de trop rebondir dessus, même si on en a très envie.
Tu veux dire sur la question du matériel et de son importance ?
Ouais, sur le commentaire, ouais. Tu disais que c'était...
Eh ben, que c'était un élément que je sais que par exemple Pionfesseur le rejette plutôt en disant de toute façon les jeux de société c'est la règle, et moi c'est un moment jusqu'au boutiste ça, mais et moi je trouve que au contraire, enfin dans cette émission là vous avez fait le choix de vous intéresser que sur les mécaniques et jamais sur le matos, et moi je maintenais que quand même, alors sans parler de c'est super bien le modelé de la figurine était super ou ce genre de choses, non, plutôt se demander comment est-ce que ça pouvait apporter quelque chose. Et puis, pour moi, ça fait vraiment partie du jeu. Enfin, je veux dire, c'est un élément qui est aussi important qu'autre chose. Ça serait pour moi
dans
comme
Five
de
Tribes
dire d'un
ou
roman...
dans le jeu de société de manière générale.
Dans Five Tribes ou dans le jeu de société de manière générale. Et je prenais cette comparaison avec le roman en disant, c'est comme si je disais, il suffit que je vous raconte l'histoire de tel roman et ça sera bon. Alors que ce qui compte, en fait, c'est bien les mots qui ont été choisis les uns après les autres. Et du coup, je mettais un parallèle avec la question des traductions, qui sont refaites d'ailleurs, qui sont remises à jour, et à quel point ça change notre perception d'un roman, et à quel point c'est important à mon sens. Et pour moi, du coup, cette question de l'édition, enfin l'édition du matos un peu entre guillemets, enfin de, en tout cas de la partie physique du jeu, c'est cette question de la traduction qui peut être, qui peut trahir l'esprit d'origine que serait la règle, ou au contraire lui rendre honneur.
Je pense voilà. que Pionf n'était pas c'était d'accord ça, sur les termes gros. Utilisés, mais
non, je pense aussi.
Non, mais moi je pense que je me suis mieux exprimé dans le hors-série que peut-être Bartouf t'as écouté depuis.
Oui.
À propos de ça, c'est-à-dire que moi je suis pas du tout anti-matériel ou je sais pas quoi. Bah c'est juste que j'en ai marre des discours des influenceurs qui parlent du matériel comme si, bah, premièrement, c'était suffisant pour faire un bon jeu, et comme si le fait qu'il soit luxueux soit un argument pour créer quelque chose de bon. Or, comme tu disais, c'est pas parce que, bah, je te reprends ta métaphore du roman, c'est pas parce que j'utilise des mots dans un langage soutenu que mon roman est mieux, en fait. Tu vois, c'est et plus oui. l'assemblage de ce matériel et la manière dont il se développe. Et c'est pour ça que moi, je reprends le terme de Flavien qui parlait de mise en scène. Je t'ai volé ce terme, Flavien.
Vas-y, hein, il est là. J'ai pas inventé le terme mise en scène. Disons que je l'ai peut-être, j'ai peut-être eu le côté ah oui, il y a de la mise en scène dans le jeu de société et c'est bien comme terme pour le jeu de société. Mais...
Je collectivise ton terme.
Ah ouais.
J'aime bien le terme de mise en scène parce que ça force les gens à se dire. Ok, comment le matériel est mis en œuvre ? Et effectivement, c'est vrai que j'ai pas réécouté l'émission, mais je sais plus si on en parlait ou pas. Mais par exemple, dans Five Tribes, il y a un truc assez visuel qui se fait, c'est que tu vois le plateau se vide de oui. plus en plus.
Et puis alors, assez tactile aussi, parlé, hein, qui est pas propre à Five Tribes, qui est propre à la Wally ou au Mancala, c'est le fait de lâcher des ouais. petits trucs et tout. Il y a quelque chose qui se passe physiquement dans sa main, quoi.
Mais il n'y a pas un truc de fou comme je le verrais dans un Chao Chao que je cite tout le temps où, où là, il y a vraiment un geste physique que je trouve incroyable, par exemple.
Oui,
mais,
oui.
Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus, en fait, Bartouf, qu'effectivement, le oui, matos, c'est important, mais...
Mais c'est pas la question du luxe, mais c'est bien, oui. Comme tu disais, voilà. C'est pas le langage soutenu, c'est le bon mot au bon moment, donc le bon matériel au bon endroit avec le bon jeu, quoi. Ouais.
Je ouais, pense que pour le coup, si on n'en a pas parlé dans Five Traps, c'est que ni d'un côté ni de l'autre, c'était suffisamment important pour que ça vienne modifier la perception globale qu'on avait du jeu. Bon, après, il y aura sûrement une place, un dossier à faire sur le matériel, etc. Parce que c'est vrai que tu parles de traduction, alors que pour moi, ce serait presque plutôt la couverture du livre, tu vois, des trucs comme ça. Bref, sûrement des discussions très intéressantes à faire là-dessus. Tu disais aussi sur le côté calculatoire, le côté froideur et calcul mental, où ce serait plus le fait des joueurs que du jeu, notamment dans ce que disait Pionfesseur sur le côté un peu trop analytique, où on peut un peu analyser le meilleur coup. Et après que toi, du coup, pour toi, Five Traps, c'était plutôt un jeu d'opportunisme parce que t'étais dans l'impossibilité de calculer à l'avance le coup des adversaires, sauf s'ils jouaient tous comme toi. C'est un peu ça.
Oui, oui, c'était... Mais
l'éternel
c'est...
débat.
Oui, c'est ça, c'est l'éternel débat.
Et mais j'ai envie de dire éternel débat sur les jeux abstraits, mais pareil, au sein même des jeux abstraits, il y a des jeux qui sont justement plus du côté calcul froid et tout, et d'autres qui le sont moins, tu vois. Par exemple, quand je joue aux échecs, je trouve que c'est beaucoup plus clair la situation et ce que je dois faire que dans des jeux où... j'ai la sensation que les premiers coups que je joue sont vraiment full aléatoires et je sais pas trop quoi faire. Tu vois ce que je veux dire?
Alors justement, il y a un commentaire là-dessus qui était intéressant de... Alors je ne sais plus. Flavien, peut-être que tu vas nous retrouver, qui revenait sur cette idée de au début, c'est pas... Je crois qu'il parlait sur Dvon et Yinch.
Ouais.
Qui ouais, justement disait que les premiers coups n'étaient pas importants, étaient d'ailleurs full random, mais c'était au bout de trois coups que tout à coup le jeu se lançait et que tout à coup là des vraies prises de décision se faisaient et là tu voyais comment ça se dessinait le jeu, mais que le début tout le monde faisait un peu au hasard.
Ouais, mais c'est ça que j'aime pas moi dans on va dire certains jeux abstraits.
Et moi là où plupart, effectivement
c'est le côté t'es paumé quoi, tu vois. Tu sais juste pas ce que tu dois faire parce que c'est pas clair, quoi. Alors que les échecs, encore, tu vois, je peux capter le délire. Ouais, c'est affordant, je dirais pas affordant, mais ouais. c'est lisible, je dirais, tu vois.
Oui, oui.
Ouais, ouais. Mais tu vois, parce que le côté ça vient plus des joueurs que du jeu, en fait, c'est quand même le jeu qui permet aux joueurs et aux joueuses de se comporter comme ça. Moi, je sais que j'ai toujours du mal avec cet argument parce qu'en fait, c'est un problème de game design si le jeu Et alors qu'il y a des moyens, en fait, dans plein de jeux, d'éviter que n'importe quel joueur ou joueuse fasse ça. Après, évidemment, on a tous plus ou moins un potentiel comme ça. Mais je trouve que c'est un peu facile de rejeter la faute sur les joueurs et joueuses, alors que ça vient quand même du game design, à mon sens, quoi, souvent.
Oui.
Faut se demander ce que le jeu il t'offre à manger aussi.
Bien sûr.
On est d'accord.
Koznikus, je vais me lancer un peu des fleurs. Il salue l'arbitrage, voilà. Mais il dit aussi, bon voilà, tu vois, il y a un peu le pour et le contre l'arbitrage. C'était super, mais est-ce que quelqu'un avait remarqué qu'on n'était plus en 2023? Parce qu'effectivement, j'avais dit en avril 2023, le conducteur était en avril 2023 et tout. Et je fais partie de ces gens à qui il faut à peu près jusqu'à décembre pour mettre la bonne année. Et après, on change d'année et c'est la merde. Donc voilà. Et aussi, un truc assez intéressant, je trouve, c'est qu'il avait déjà joué au jeu, Koznikou, et en fait, l'émission, le fait qu'on en débatte, lui a permis de mettre le doigt sur des sensations qu'il a pu rencontrer et qu'il avait peut-être du mal à formuler ou à conscientiser. Et ça, c'est super cool parce que du coup, c'est un peu... Enfin, c'est à ça que ça sert la critique, etc. C'est des fois, en fait, quand t'écoutes un truc, tu te dis ah mais ouais, putain, c'est enfin les mots que je voulais mettre dessus et enfin cette personne a compris ce que je voulais dire, ce que je ressentais. Ça peut passer par la fiction, tu sais. Il y a plein de trucs où tu te dis oh là là, cette personne a tellement bien exprimé tel sentiment que je peux ressentir. Et ça peut passer par le discours plus argumentatif, comme c'est le cas dans le pour et le contre. Donc super commentaire. Enfin, c'est super plaisant en tout cas moi dans la vision que j'ai du format. Kisco qui adore le jeu mais qui rejoignait aussi le côté sur l'aspect trop analytique, donc en fait c'est un jeu qu'il adore mais que en fait il sort jamais, ça l'éloigne un peu de la table, ça a du mal à le faire venir. Et du coup c'est rigolo parce qu'il propose de mettre un sablier, ce qui est un truc très très fréquent effectivement, le chronomètre dans les jeux abstraits en fait, pour justement limiter le temps de réflexion. Peut-être un argument en faveur de Five Tribes est un jeu abstrait, en grande partie abstrait en tout cas. Et il parle de Pour une poignée de Meeple qui serait une version de Five Tribes un peu plus légère ou quoi, mais j'ai pas du tout joué au jeu, je sais pas si l'un d'entre vous a joué à ça.
Pas joué non plus, moi.
Non, pas joué non plus, non.
Mais voilà. Stan parle un peu comme Julien du focus sur la phase d'enchère, et notamment il y avait toute une idée sur le fait de miser zéro, l'importance de vraiment cette mise à zéro et ces multiples mises possibles à zéro. Je le cite là pour le coup, je vis pas cette phase comme une phase de jeu d'enchères, mais plutôt comme une inversion du tour de jeu avec la possibilité d'acheter la première place et un peu de stress, suspense qui est lié à ça. Du coup, le coût de l'enchère, c'est pas un coût pour le tour en cours, mais plutôt une espèce d'investissement sur les quelques tours qui vont arriver et les opportunités que ça va t'offrir, quoi. Et c'est effectivement Stan qui citait aussi des jeux du projet GIP, c'est ce que tu disais avant Bartouf, pour l'arc de partie, c'est-à-dire les premiers tours qui sont un peu opaques et que ça se délie petit à petit, quoi. Donc voilà, sur la phase de jeu d'enchères, c'est intéressant parce que c'est vrai que t'as des jeux d'enchères type art moderne où t'as vraiment le sentiment de jouer à un jeu d'enchères, très typique de l'image que tu te fais de l'enchère, et t'en as d'autres où c'est un peu moins le cas, je pense ici à Ara, moi que j'ai découvert récemment, et c'est clairement un jeu d'enchères, mais t'as aussi... un gros sentiment de stop ou encore, de prise de risque et tout, et t'as pas l'impression de jouer à un pur jeu d'enchères en tout cas.
C'est marrant parce que l'enchère pour le premier joueur, ça ressemble vraiment à des trucs genre de vieux jeux, proto-jeux de gestion des années 90 ou jeux de gestion début 2000. J'en ai pas en tête, mais je crois que dans Dimarer il y a ça. Je pense à Mule and Money. Ou genre, tu sais, tu choisis une action, puis ensuite elle est mise aux enchères pour savoir qui va la faire. Des espèces de trucs comme ça, où on foutait des enchères un peu partout, c'était un peu à la mode. Et ça fait penser à ça, mais dans Five Tribes, c'est déjà un peu plus élégant, quoi, tu vois, parce qu'il y a cette enchère à la Amun Re, là, où tu peux pas miser ce que tu veux, quoi.
D'accord. Okay.
Et effectivement, je suis d'accord que le zéro est intéressant, là, du zéro qui change l'ordre du tour.
Voilà donc pour le retour sur les commentaires, merci, on espère qu'on en aura au moins autant sur l'émission du jour, et je vous propose messieurs qu'on se lance dans l'arène, changeons un peu du discours de boxe et passons chez les gladiateurs. Je vous laisserai choisir un gladiateur de votre choix, c'est comment celui qu'a le filet, c'est le rétière, un truc comme ça, je sais plus, je connaissais juste...
Myrmidon.
Ah bah voilà, on en a deux. Bref, c'est parti, on va parler donc de Kingdom Builder. « Kingdom Builder, donc Pionfesseur, je vais pas te faire l'affront de te demander la fiche signalétique. On sait ce que là-dessus, ce que tu penses de ça. Non, donc un jeu de Donald Vaccarino, Donald X Vaccarino, hein, illustré par Oliver Schlemmer et publié chez Queen Games en 2011 déjà, et qui a connu, si on devait faire un peu un sorton de grand jeu, blablabla, il a eu plein d'extensions, il a été réimplémenté en 2020, je crois, sous Winter Kingdom, que ici personne n'a essayé, c'est ça ?
Non, pas essayé, non.
Non.
Qui a un thème dont on ne parlera que très peu, je pense, sauf si vous avez vraiment des choses à dire, mais voilà, hein, à part, c'est drôle, on pourrait parler du thème, hein, qui est présenté sur la couve comme une espèce de truc d'aventure où tu vois ce truc à l'horizon et où, voilà, en fait, il n'en est rien. Tu vois le château qui est important dans le jeu, mais bon. Hein, c'est, voilà. Avec une traduction qui a fait la légende, hein. Queen Games, c'est
ah bah un peu Queen Games, oui, à l'époque.
C'est ça, c'était les traductions Google et tout. C'était un peu le Matago d'aujourd'hui, quoi. Et quand Matago, des fois, dit « Oui, mais on essaye de s'améliorer, vous voyez pas le positif, machin », bah, rappelez-vous que vous n'êtes pas les premiers, en fait, quand il y en a d'autres qui sont passés par là avant vous, et que Queen Games, bah, on en parle encore aujourd'hui comme d'un exemple de traduction bien foireuse à l'époque, et que, ben, bah, voilà, évidemment que ça reste, et c'est pas, et il faudra le temps pour qu'on continue, pour qu'on arrive à vous faire confiance de ce point de vue-là. C'est normal.
Et attends, parce que Queen Games avait l'avantage de donner les règles aussi en anglais, donc du coup et en allemand. Donc tu pouvais encore te référer à un truc. Fallait pas que t'ailles sur Internet pour aller voir qu'est-ce qui n'allait pas dans ta version française.
Ouais, grave. C'est vrai, c'est vrai.
Ça avait cet avantage-là.
Et donc, Monsieur Vaccarino, il avait eu en quelques années avant, en 2009, le Spiel des Jahres avec Dominion, hein. Et ben voilà, il s'est dit bon, ben un petit deuxième. Allez, en 2012, du coup, Kingdom Builder a eu le Spiel des Jahres. Il a aussi eu d'autres prix un peu moins prestigieux. Il y a eu le Golden Geek Awards, il y a eu d'autres nominations. C'est un jeu qui est disponible sur BGA avec, je crois, ses extensions et compagnie. Alors, peut-être que Bartouf, tu nous diras un mot des extensions si tu veux pour présenter ce qu'elles peuvent apporter, mais ce ne sera pas là encore le focus de l'émission. Vaccarino, voilà, c'est vraiment les deux jeux, je pense, qu'on retient de lui. Alors, il a un jeu en préparation, là, qui doit arriver. Je sais pas si vous avez vu ça avec cette couve incroyable de Franz Vovinkel chez Rio Grande, Moon Colony Bloodbath. Ça vous dit quelque chose?
Ouais, j'ai vu la couve, ouais. Oh là là.
Non, mais est-ce que t'as vu surtout la promesse du jeu? Qui est un deck building, mais avec un deck collectif et compétitif, le jeu, par contre. Tu construis un deck, mais où tout le monde. Voilà. La promesse est cool. Faudra voir si c'est bien.
Je savais pas que c'était ça, moi.
Ouais. Pour moi, c'est cool. Après, on verra.
Rigolo.
Mais sinon, en jeu autre, parce que si vous vous promenez dans sa ludographie BGG, vous allez surtout tomber effectivement sur toutes les versions de Dominion, évidemment, et sur les extensions et tout ça de Kingdom Builder. Il a quand même fait quelques autres jeux. Moi, je sais que j'ai joué à Piña Pirata à l'époque, qui était sorti chez Yellow, mais sans me rendre compte que c'était Vaccarino, en fait. J'en ai aucun souvenir, du tout. Et sinon...
Ok.
Ouais, tu as joué?
Non, non, mais je rigole parce que du coup, t'en parles, mais en fait, t'as rien à dire dessus.
Ouais, non, mais c'est pour, tu vois, l'anecdote, le côté, en fait, c'était Vaccarino aussi, mais il en a pas tant que ça, et c'est quand même un auteur, tu vois, majeur. Mais il a fait Android Infiltration dans l'univers de Netrunner, que pareil, pas essayé du tout, mais c'est pas un jeu à deux pour le coup, c'est un jeu de 2 à 6. Et puis d'autres trucs, je sais pas si, mais c'est rigolo parce que c'est vraiment. Et tu sais, Patrick Hernandez avec son Born to be Alive, et puis il y a Vaccarino, bon, il est Kingdom Builder, mais il y a Vaccarino avec son Dominion, quoi. C'est pas un auteur qui est très prolifique. Après, il est très prolifique parce qu'il a fait plein d'extensions de Dominion, mais voilà. Alors, rapidement, donc, après avoir un peu fait le pédigré de l'auteur, peut-être les petits avis à chaud, rapidement, du pourquoi est-ce que vous êtes dans tel camp, sans vous étendre outre mesure, vraiment plus... Ce qui fait que vous aviez envie de participer à l'émission. On commence par toi, Bartouf.
Eh ben, écoute, moi, c'est un jeu qui me plaît toujours par la sensation d'essayer de maîtriser un hasard qui est absolument immaîtrisable dans le jeu. Et pourtant, j'ai l'impression que je peux tenter des coups, là, en me disant, faire des paris sur l'avenir en permanence, sans savoir s'ils seront payants ou non. Voilà. Et moi, ça, c'est un truc qui me... Du coup, à chaque fois, j'ai un petit stress et je me dis « Ah, putain, est-ce que je le mets là ?» ou Et voilà. C'est ça qui me plaît dans Kingdom Builder.
Ok. Et puis, toi, qui n'aime pas Kingdom Builder.
Oui, parce que du coup, je serais dans le camp du contre. Moi, il faut bien comprendre qu'à l'époque aussi, ça a été d'autant plus une déception que bah, j'avais vu le jour où Dominion est sorti, tu vois, pour moi c'était un jour incroyable parce que le jeu il était complètement dingue et tout. Et 3 ans plus tard, tu te dis, ouais, il y a le même auteur, il va faire un gros jeu qui va ressortir là, qui va peut-être buzzer à mort et tout. Et puis j'y joue et en fait, c'est la grosse baffe, mais tu sais, dans le sens négatif du terme, où je me rends compte qu'en fait, ouais, c'est juste un jeu que je trouve hyper opportuniste, mais dans les mauvais sens du terme, tu vois, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir aucun contrôle dessus presque, et que le peu de contrôle que j'ai, il est presque automatique. Je reviendrai dans les détails là-dessus, mais voilà, il y a 2-3 règles que je trouve absolument débiles en termes de conception, donc ouais, ça a été la giga déception à l'époque. J'y ai pas rejoué pendant très longtemps, et donc du coup, j'y ai rejoué juste pour tester, enfin pour préparer l'émission, et effectivement, c'est toujours aussi nul.
Très bien. Donc ouais, bah c'est aussi ce que peut le côté les attentes, tu vois, d'un auteur et tout. Tu te dis, ouais, il a fait Dominion, il va forcément, ou en tout cas sinon forcément, proposer un truc qui soit peut-être aussi fort, et finalement tu tombes de haut. Je pense que par contre, Bartouf, tu aimes Dominion? Oui.
Oui, moi j'aime Dominion, oui, j'aime beaucoup, ouais. les deck building et Bidominion, oui.
Ouais, difficile de passer après le fameux deuxième album, tu sais, comme on dit en musique.
Ouais.
Rapidement,
moi,
le
j'ai
jeu,
peut-être
qu'est-ce
eu
que
la chance de le découvrir, ouais, avant, ouais. Non, je disais, j'ai peut-être eu la chance, moi, de découvrir Kingdom Builder avant, et de le découvrir plutôt, oui, dans ma vie de joueur. Enfin, je le découvre en 2011 quand il sort, et moi, c'est en 2011, c'est l'année où je reprends justement les jeux de société moderne. Donc, peut-être
d'accord,
aussi que
ouais. Trajectoire un peu différente. Alors, rapidement, le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un truc. Une grosse boîte comme ça devait être 40 balles à l'époque, effectivement, qui te vend un peu un côté vaguement médiéval, comme il y en avait des centaines à l'époque dans la boîte jaune de Queen Games, comme elles se ressemblent toutes. Et l'idée du jeu, c'est qu'on va avoir une map qui va être créée par 4 cadrans, qui, je crois, faisait l'objet de, justement, dans la traduction, des trucs un peu absurdes en termes de wording. Et là-dessus, bah, y a différents territoires, hein, qui sont des aplats de couleurs plus ou moins, et nous on va chacun ou chacune avoir des maisons, hein. Et comme dans les aventuriers du rail, eh ben, la partie va finir à partir du moment où quelqu'un a mis sa dernière maison, et on finira le tour en cours, et puis après on va regarder les points, et les points ils sont déterminés par des objectifs en fait qui sont mis autour du plateau, enfin qui sont révélés en début de partie, je crois qu'il y en a 3 révélés. Et il y a toujours aussi un objectif commun qui est justement sur le château qu'on voit sur la couve, où en gros c'est bien de se mettre à côté avec ses maisons, ça rapporte des points. Ce sont des objectifs sur lesquels on reviendra un peu, qui parfois sont contradictoires, parfois sont complémentaires. On verra si c'est, voilà, c'est peut-être soit la force ou une des faiblesses du jeu. Et donc ça, voilà, c'est tout. On essaye en gros de placer ses maisons comme ça. Le seul, là, mais évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous placer comme vous voulez. Il y a comme dans les aventuriers du rail une contrainte, alors c'est pas la même, les aventuriers du rail c'est il faut avoir les bonnes cartes en main pour pouvoir poser ces trucs, là c'est presque un peu l'inverse. Non, c'est pas l'inverse, je pense pas.
C'est juste. C'est pas l'inverse, non.
Si,
ouais.
Je sais pas. J'essaie de vérifier s'il y avait pas une espèce d'inverse de la contrainte, mais je pense pas.
Bah c'est surtout qu'elle est aléatoire, quoi, c'est tout.
Ouais. C'est en gros, à la fin de ton tour de jeu, t'as une carte en main. À la fin de ton tour, tu vas repiocher une. Mais la carte que t'as en main, c'est celle que tu vas utiliser pour ton tour. T'en as qu'une. Évidemment, j'imagine qu'il y a des variantes où t'en as 2 ou 3. Enfin, voilà, comme dans Carcassonne et tout, où il y a des variantes sur le nombre de cartes, de tuiles que tu peux avoir. Et c'est le territoire sur lequel tu vas devoir construire. Donc j'ai une carte canyon, je suis obligé de construire sur du canyon. La deuxième contrainte étant que si je peux construire sur un truc, une maison adjacente, enfin un lieu adjacent à une maison que j'ai déjà posée, je suis obligé de le faire. Ce qui est une contrainte
forte.
On en reparlera. Forte et souvent un peu relou, contre laquelle des fois t'essayes de te battre pendant toute la partie. Mais donc ça fait que tu dois te placer sur le territoire de ta carte, si possible adjacent à un truc que tu as déjà. Et c'est à peu près tout. Voilà, durant la partie, vous allez recevoir des pouvoirs, on en reparlera surtout, voilà, mais qui vont permettre d'être activés et de faire quelques trucs spéciaux. Des pouvoirs qui, là aussi, sont mis en place au hasard. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du jeu. Hein. C'est un jeu simple et malin. Comme dirait si on fait ça. Non, c'est vraiment extrêmement immédiat, quoi, en termes de game design. Moi, j'y avais joué avec des gamins de 7-8 ans. Alors, en tout cas, en termes de système, de game system, il est extrêmement, extrêmement simple, quoi. Ça a peut-être ses limites, mais tu joues une carte, tu poses une maison, et c'est tout. Non, trois maisons à ton tour, c'est ça?
Trois maisons, oui.
C'est trop. Ouais, c'est trois maisons.
Ouais, trois maisons.
Voilà, c'est le jeu. Je vous propose qu'on passe sans plus attendre à ce qui fait que ce système et un peu ce qu'il y a autour fait que le plaisir est là ou pas. Et donc les grands axes qu'on a choisis, on va parler des justement un peu de l'espace de choix en fait du game system justement et de l'intérêt de ces choix. Alors forcément tout est un peu entrelacé. On parlera aussi ensuite des pouvoirs justement, même si évidemment ils sont liés aux espaces de choix hein, forcément. Et ensuite de justement ce score qui est créé lors de la mise en place et des dynamiques que ça peut entraîner de manière générale. Peut-être Pionf, je te laisse commencer sur l'espace de choix et peut-être l'intérêt des choix que tu peux faire dans Kingdom Builder.
Ouais. Ben, déjà, je sais pas si tu as utilisé le terme, mais on peut capter direct que Kingdom Builder, c'est un jeu qui va se focaliser sur le placement. Moi, je dirais que c'est un jeu de placement.
Ouais.
Donc, je passe mon temps à placer des trucs sur le plateau et à me demander où c'est que c'est le meilleur endroit pour les placer. Mais, donc, si je devais le situer dans la grande lignée des jeux de placement, je dirais qu'on est sur quelque chose de vraiment très lisible et très clair. Et je dirais même trop lisible et trop clair. C'est-à-dire qu'en fait, mon choix de placement, moi, ce qui va me poser problème, alors je vais revenir en détail après sur pourquoi c'est aussi clair, mais on en reparlera après. Mais c'est surtout que du coup, j'ai pas tant la sensation de faire un choix parce que c'est très fixe sur le plateau, ça bouge pas trop. Et donc, je sais où c'est que je dois me placer. Si je peux faire des comparaisons, par exemple dans El Grande, pour citer genre vraiment le jeu canonique du jeu de placement, bah tout est un peu chamboulé en permanence. Genre il y a des cubes qui peuvent se déplacer. Vu que c'est de la majorité, bah t'as un peu l'impression que le premier, enfin celui qui va gagner des points dans un territoire, ça change un peu tout le temps. Je peux donner un autre exemple où c'est fixe aussi, c'est dans Trans-Europa ou Trans-America, c'est le même jeu. C'est aussi des espèces de connexions fixes qu'on fait sur le plateau. Mais il y a une énorme interaction entre les joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, vu que le réseau il est commun, je dois me placer en réfléchissant par rapport aux autres. Alors que dans Kingdom Builder, bah, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Enfin, c'est une interaction très indirecte. On se bloque juste, quoi. On prend la place des autres. Et bah, parce qu'en fait, on n'a pas de contrôle sur ça. Je veux dire, je ne peux pas volontairement me dire, OK, je vais bloquer quelqu'un parce que c'est très avantageux pour moi. En général, ça ne sert à rien de faire ça. Et en plus, du coup, bah, comme je disais, c'est très statique, quoi. Une fois que les pièces, elles sont posées, elles ne bougent plus. Et donc, j'ai un peu l'impression que c'est froid et qu'il ne se passe jamais rien, en fait. Tu vois, je pose mes trucs et puis voilà. C'est le premier défaut que je noterais, moi.
Moi, j'avais mis en vrac que j'ai l'impression de jouer un Knizia, mais un Knizia un peu moins tendu. En fait, c'est par rapport à Dourge Divouste, tu vois, à Through the Desert. Il y a ce côté où effectivement, bah, à ton tour, tu places un truc. Sauf que dans Through the Desert, eh ben, tu vas où et ça m'y a fait penser parce que Knizia est très dans une vibe comme ça ces dernières années avec Rebirth qui va arriver en KS et surtout Cascadero aussi et qui est sorti récemment et où t'es vraiment en train de jouer à un jeu d'enfoiré, tu vois, où vraiment, effectivement, il y a ce côté de placement qui, souvent, en plus, est libre pour le coup dans les Knizia, tu vois, il n'est pas imposé par une carte, et où tu vas le faire à la fois parce que, évidemment, tu vas essayer de t'intéresser à des trucs, de prendre des trucs qui t'intéressent, mais c'est des gros jeux de blocage, quoi. Là où ce que tu reproches à Kingdom Builder, c'est que il y a un peu cette vibe-là, mais sans le côté blocage, peut-être du fait que t'es un peu. Forcé par la carte.
En vrai, tu penses peut-être à Knizia parce que c'est un peu minimaliste dans le game design,
Ouais,
mais...
clairement, oui, il y a la phase de le système de jeu, enfin le flux de jeu et les actions à ton tour, il y a ce côté-là de Knizia un peu de cette vibe-là, ouais.
Moi, je trouve qu'un jeu de Knizia, que ce soit, t'as cité donc la traversée du désert, mais même, je vais dire les cités perdues, tu vois, qui a rien à voir en termes de jeu, mais c'est des jeux vraiment qui m'explosent à la gueule, quoi, qui vraiment, j'ai l'impression de me faire éclater la gueule soit par les adversaires, soit par le jeu, tu vois.
Ouais.
Donc c'est largement pas froid et statique, c'est tout
Ah ouais.
l'inverse, avec pas grand-chose en fait. Alors après, son autre jeu de placement connu, du coup, c'est Tigre et Euphrate. Et je pense que c'est aussi un jeu pas du tout statique, tu vois. Enfin, c'est hyper interactif et tout.
Oui. C'est pas du tout la même chose qu'à chercher. Oui. Alors moi, là où je me porte, je suis pas tout à fait d'accord avec le pionfesseur, c'est sur la question sur le fait que ça serait pas dynamique. Là où une des dynamiques se fait, ce sont sur les pouvoirs. Étant donné que, alors ils sont en nombre limité sur certaines cases, donc en gros il y en a pour tous les joueurs normalement, mais seulement il y a deux points d'accès pour arriver dessus, donc il y en a deux pouvoirs à un endroit, deux pouvoirs à un autre, et si tout à coup deux pouvoirs sont pris à un endroit, donc c'est-à-dire si je me mets à côté et que je touche, je récupère le pouvoir, et qu'un autre le fait aussi, bah les troisièmes, s'il y en avait un troisième qui avait prévu, qui avait visé à cet endroit-là, il a l'herbe coupée sous le pied, or ces pouvoirs c'est un des éléments les plus, enfin c'est ce sur quoi il faut s'axer, en plus de bien sûr des objectifs, pour pouvoir justement atteindre ces objectifs. Donc pour moi, là, il y a quand même des retournements qui peuvent se faire où tu te dis « Bon, bah je vais y arriver par cet endroit-là et j'arriverai sur le pouvoir. » Et puis, tu te le fais voler et tu te dis « Oh là là, mais c'est galère parce que je vois pas comment je vais pouvoir me faire téléporter à l'autre endroit.
» Les pouvoirs, ouais, tu disais juste, on peut, sur un espace donné, on peut pas prendre les deux tuiles, c'est ça hein?
En fait, chaque pouvoir est sur deux lieux différents. Mais ils sont en fait
ouais,
ils sont en quatre...
Sur un même lieu, tu pourras pas avoir les 4 tuiles pouvoir, toi, par exemple.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Ok. Ouais, dans ma partie que j'ai fait, là, pour préparer, j'ai rejoué sur BGA, on était 3. Et ben, j'arrivais pas à avoir les pouvoirs. Effectivement, la personne qui a gagné, elle avait, je crois, 7 pouvoirs à la fin, alors que j'en avais 2. Et ben, on a vu la différence, quoi, au niveau de la flexibilité, justement, de pouvoir un peu se déplacer plus librement.
Ben justement, dans le fait que tu viens, tu prends le truc à la place de l'autre et du coup il est bloqué. Et l'autre endroit aussi où selon moi tu as un peu d'interaction, on est bien d'accord, elle reste très indirecte, c'est aussi le fait que tu peux des fois te développer à un endroit où l'autre se développe pour pouvoir ensuite se téléporter ailleurs. Donc ce que j'appelle se téléporter, c'est donc comme on disait au début au niveau des règles, c'est imaginons je sors une carte désert, et si mais j'ai déjà des choses dans le désert, et ben je suis obligé de jouer là où mes petites maisons du coup touchent, mon royaume touche du désert. Mais si tout à coup parce qu'un adversaire ou parce que j'ai complètement rempli la zone, c'est fait, je dois donc toujours me mettre dans du désert, mais je peux me mettre dans un désert complètement ailleurs. Or, l'un des objectifs du jeu, c'est de se placer un peu partout sur la carte et de ne pas forcément rester concentré, parce que sinon, tu ne peux pas aller chercher les pouvoirs qui sont aux quatre coins du royaume, et tu ne peux pas non plus aller chercher les capitales, les châteaux, qui sont aussi aux quatre coins du royaume. Donc pour moi, là aussi, il y a un truc intéressant, des fois, à se jouer près des autres pour se dire, rapidement, notre espace vital va disparaître, et je vais pouvoir, donc, comme je dis, me téléporter, pouvoir me mettre ailleurs sur le plateau. Là, c'est bien sûr que dans le cas où on joue à 4. Quand tu joues à 2, vu qu'il n'y a aucune adaptation par contre au niveau de l'espace de jeu, c'est clair que on est chacun dans notre coin et on fait notre petit jeu dans notre coin.
Alors j'ai joué à 4 essentiellement. Hein. Pour préciser, moi j'ai joué à 4 essentiellement et ce reproche, je le fais aussi à 4. Je redis quand même ce que j'ai dit, c'est que moi ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a vraiment pas de chamboulement dans le sens où je suis d'accord avec toi qu'au début on va faire de la course en fait pour ces espèces de petits pouvoirs là, mais en fait c'est assez évident, c'est à dire que premier tour si tu peux tu te mets à côté d'un pouvoir et finalement on va juste faire dans la mesure du tirage essayer de choper un maximum de pouvoirs, mais ça se fait qu'en début de partie où ça va relativement vite, j'ai l'impression, de récupérer ses pouvoirs. Et ensuite, pendant tout le reste de la partie, c'est juste, vas-y, pose tes maisons et continue à tourner autour de là où tu t'es déjà posé. Ça se retourne jamais. Les pouvoirs, on peut pas les voler, on peut pas les... Tu vois ce que je veux dire ? Ça se chamboule pas, quoi. Même les pouvoirs, ils sont fixes, quoi. Une fois que tu les as, tu les as, quoi.
Et d'ailleurs, les pouvoirs, pour ajouter à l'aspect plus statique, c'est une règle à la con aussi, ça. Je sais pas si tu voulais évoquer Pionfesseur, mais... Tu peux l'utiliser que le tour d'après où tu l'as récupéré. Ce qui est, tu vois, un genre d'une exception, alors qu'en fait, ça coûterait pas grand chose de dire, à partir du moment où tu l'as pris, vas-y, tu peux l'utiliser, tu la retournes et c'est bon. Et en fait, j'imagine, pour des questions d'équilibrage ou quoi, ils disent, en fait, non, au tour où tu la récupères, tu la mets face cachée, puis au début du tour, du coup, tu peux la retourner et la réutiliser. Ce que je peux comprendre, mais ce qui en même temps ralentit encore, tu vois, le début de partie potentiellement, quoi.
Alors ça c'est horrible en termes de mise en scène surtout, hein, justement. Ouais. On parlait de la mise en scène, Ça, c'est... Alors, dans quel sens je mets mon truc pour dire qu'il est validé ou pas, on comprend rien.
Ouais, et puis en termes de logique, tu vois, enfin, en termes de... Ça rajoute une exception, ça rajoute une ligne de règle, un peu inutile, sans doute pas, mais voilà, un peu parasite, quoi.
Je sais pas vous, mais moi, je me fais pas chier à les mettre face cachée à chaque fois que je place des maisons.
Ah oui, non. Moi, il y a un système, c'est ça, tu sais, tu le pousses devant ou derrière toi. Enfin, en gros, tu l'avances en faisant OK, je joue ça maintenant, et voilà. Et puis, on comprend rapidement, visuellement, si ça a été joué ou pas. Non, effectivement, moi non plus, je ne retourne pas les pions, les pions pouvoir.
Et pour ce qui est de la flexibilité, justement, moi, il y a aussi, vous disiez, donc cette contrainte de Bartouf, pour reprendre ton exemple, je tire une carte désert, je dois mettre sur des déserts. Tu disais si je suis sur un désert, mais c'est même pas ça, c'est si je suis sur ou à côté d'un désert. C'est-à-dire que si je suis que sur de la forêt, mais que je touche un désert, là, ça craint. Parce que je vais devoir me mettre sur un désert où, a priori, j'ai déjà des trucs sur la forêt, donc que ce soit pour les objectifs ou pour les tuiles pouvoirs qui vont être dans le coin, a priori, je les ai déjà eues. Du coup, moi, ce que j'essaye de faire souvent, c'est, tu vois, si je tire de la forêt, en fait, je vais faire attention de ne pas me mettre adjacent, de me mettre adjacent au moins de territoire possible de ce coin-là, pour que si je tire justement du désert, ben, je vais pouvoir me mettre où je veux parce que j'ai fait gaffe avant de ne pas être adjacent à ça, quoi. Ce qui permet d'éviter un peu ce côté statique où tu vas grouper tes maisons tout le temps au même endroit, quoi.
Mais là aussi, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pionfesseur sur l'idée qu'au début, on ne va tout de suite, tu vas chercher le pouvoir. Ça dépend quand même des cadrans et de comment ça se configure. Il y a des moments où, en fonction du terrain que tu as, tu te dis, je vais plutôt me mettre, parce que les points sont, et parfois, quand même, le plus gros des points se fait aussi au niveau des châteaux, et le fait d'être autour. Et des fois, tu vois une petite zone où tu te dis, ah, vas-y, je remplis en 3 cette zone-là avec le capital, enfin avec le château, et du coup, je vais pouvoir plus tard, justement, popper ailleurs, parce que je ne touche rien qui va me bloquer par la suite.
Après, bon, ça resterait...
Je suis d'accord avec toi, c'est que ce que tu dis, ce que tu as dit est tout à fait vrai. Effectivement, il n'y a aucun moment un truc où ça se retourne, tout à coup je dis « Ah, tes maisons, c'est les miennes » ou ce genre de choses. Il n'y a pas de chamboulement sur le plateau, ça c'est sûr.
Non, ok, je vois ce que tu dis. C'est-à-dire tu peux avoir des espaces de choix où tu as le choix entre, en gros... Est-ce que je fais un truc un peu à long terme pour choper le bonus ou est-ce que je mise sur des points... Une zone qui va me faire plus de points. C'est un peu ça que tu veux dire, je crois.
Oui, c'est exactement
ça. Ça je l'ai pas trop ressenti, mais je peux entendre que ça peut se ressentir un peu au début, effectivement.
Non, ben moi, ça rejoint ce que je disais là au début. C'est le fait que, d'ailleurs, tu vois, tu te places à cet endroit-là en te disant, et avec un peu de chance, je ne retomberai pas sur telle carte, sur les 5 donc sur les 5 trucs au prochain tour, ce qui me permettra effectivement de me télétransporter ailleurs et de vite prendre le pouvoir avant que quelqu'un ne l'ait. Et ce qui est une espèce de pari sur l'avenir du tout le temps, est-ce que je prends plutôt les points, plutôt le pouvoir, tout en n'ayant aucune assurance qu'au prochain tour j'ai quelques, tu vois, je m'ouvre le plus de fenêtres possible et en même temps ça peut mal se passer quand même. Et moi je retrouve une certaine excitation là-dedans.
Si on parle de flexibilité justement et d'ouverture des choix et tout. Moi, tu vois, vraiment, la règle que je trouve la plus débile du jeu, c'est le fait qu'on doive placer justement ces maisons adjacentes à des maisons qu'on a déjà, quoi. Parce que, autant à la base, moi j'aime bien l'idée de, tu sais, tu pioches une carte et tu dois te placer dans ce type de territoire. Ça fait un peu penser, je crois que Flavien t'a parlé de Carcassonne tout à l'heure.
Ouais.
C'est un peu l'idée, ouais, je pioche ma tuile, j'ai une contrainte assez forte, tu vois, finalement, de devoir me placer sur ce territoire. Mais du coup, la contrainte d'adjacence rajoutée à ça, je trouve que c'est de trop, en fait, et du coup, ça va tellement restreindre mes choix qu'au final, j'ai l'impression que ça en est même plus des choix, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire.
Généralement, on n'est pas loin d'un feeling jeu abstrait, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il y a beau avoir du hasard dans le tirage, c'est du hasard, tu sais, en game design, des fois, on dit il y a le input randomness et le output randomness. En gros, c'est, quand tu fais des... Quand tu es dans ce genre de jeu, tu es toujours entre deux hasards. Tu vois, c'est le hasard du tour d'avant, le hasard du tour d'après, des trucs comme ça.
Le plus simple question, pour donner cet exemple, c'est l'output, c'est tu lances un dé et t'avances de temps de case, je crois, alors que l'input, c'est tu lances un dé et ensuite...
Ça, c'est l'input.
Et l'output, du coup, c'est tu lances un dé et ensuite, à la field, tu vas avoir des dés. Donc, il y a eu un hasard, mais tu vas voir ce que tu vas en faire et tu vas faire des choix sur ce hasard-là. C'est ça.
Non, t'as dit deux fois la même chose. L'input randomness, c'est tu lances les dés et démerde-toi avec.
Ouais, c'est ça.
L'output, ça va être, tu fais un choix, genre c'est zombicide, tu dis j'attaque un zombie, et ensuite tu lances les dés pour voir ce qui va se passer.
Ok, yes, ok.
c'est l'exemple qu'on donne, tu vois, mais tu vois, dans n'importe quel jeu, en fait, t'es souvent entre deux fenêtres de hasard, tu vois.
Oui, bien sûr. Ouais.
Un qui va se passer avant ton choix et un qui va se passer après. Et la question, c'est lequel va prévaloir quand tu vas faire ton choix, quand tu vas calculer ton coût. Et en fait, je trouve que là, l'input randomness, il prévaut énormément. C'est-à-dire que j'ai vu ma carte et c'est ça qui va déterminer plus que les tours suivants, tu vois, ce que je vais faire là, maintenant, tout de suite. Mmh. Parce qu'en fait, il y a tellement d'inconnus dans ce qui risque de se passer entre les tours des autres et tout ça, que tu peux pas calculer ça. Donc, tu es obligé de jouer tactiquement, de jouer sur le tour en cours, quoi. Et donc, du coup, j'ai vraiment l'impression, moi, de juste devoir optimiser mon tour actuel, quoi.
Ouais. Avec un peu le sentiment que le jeu joue pour toi, en fait. Le jeu joue un peu pour toi aussi.
Ouais, c'est ça. Exactement, et que du coup il n'y en a pas vraiment de stratégie, tu vois. Je peux pas voir à long terme, alors que Carcassonne, pour reprendre l'exemple que tu as cité, Carcassonne, au moment où je dois placer mon meeple, c'est un choix stratégique, parce que je me dis, est-ce que je vais le récupérer assez tôt, et pour le récupérer, justement, c'est quand j'aurai complété cette zone, donc que ce soit une ville ou une route et tout ça. Dans Kingdom Builder, je peux pas réfléchir comme ça, je peux pas tant réfléchir à long terme que ça, alors à moins de suranalyser le truc, mais du coup on est vraiment dans un feeling jeu abstrait pour moi.
Ouais, je te rejoins là-dessus.
Je pense que le jeu serait abstrait. T'enlèves la règle des adjacences, je pense que le jeu est déjà deux fois mieux.
Ah ouais, moi j'aurais peur justement d'ouverture que ça crée et de l'analyse. Enfin, tu vois, t'imagines, tu peux te placer où tu veux sur un champ de fleurs. Du coup, l'analyse du meilleur coup, elle est affreuse pour moi.
Je sais pas.
Alors que là, ça me contraint beaucoup. Et je me dis, bon, bah, c'est chiant parce que le jeu joue pour moi, mais à la limite, entre deux mots, tu vois, je crois que je préfère celui-là à celui du ok, bac à sable, tu joues sur un champ de fleurs où tu veux, tu t'en fous. Et là, tu vas te dire, waouh, ouais, mais attends, qu'est-ce que je fais parce qu'il faut que je le bloque lui.
Mais c'est pas
si
tant bac à sable parce que, l'air de rien, dire champ de fleurs, tu vois, c'est pas non plus énormément de cases, hein, sur le plateau.
Ah, c'est quand même pas mal d'opportunités, je trouve. Et moi, je sais que ça me.
Je pense pas.
Je serais complètement bloqué dessus, quoi, là-dessus. Au moins dans les premiers tours. Comme on rejoint
Pipe Trap, week-end proxy jeu.
On essaie
la variante. Week-end proxy jeu, on fait cette variante, Flavien.
Ouais.
Ça marche. Mais moi, je veux bien rebondir là-dessus. Vas-y. Mais
vas-y.
Je suis tout à fait d'accord sur un effet. Tu vois, sur un sentiment de jeu abstrait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pionfesseur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais par contre. Justement, moi j'ai l'impression que c'est toujours un jeu d'ouverture, c'est-à-dire que à chaque fois que je me place quelque part, je suis en train de me dire, ok, prochaine carte, que ce soit ça, ça ou ça, je pourrais aller là, là ou là. Enfin, tu vois, ça m'emmène, ça me forcera à aller là, là ou là. Donc, est-ce que je me pose vraiment là? Et donc, chaque fois, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai une solution de backup qui est intéressante pour mes 5 prochains choix, parce que ça sera forcément une des 5 types de terrain qui va tomber. Et donc à chaque fois, je joue mon coup en me disant, pour le prochain, il faut que j'ai un truc qui soit à cool à faire. Et donc sinon, je ne me pose pas là. Et ça, je le commence dès le premier coup. Et tu vois, tous mes coups se jouent comme ça, en pensant au prochain, en me disant, faut forcément que j'ai une solution de sortie.
Qui vont dépendre donc, de ce que tu tires quand même, forcément.
Comme voilà, carte, exactement.
Ça m'arrive jamais, moi. Ah ouais. Moi, ça m'arrive jamais. À chaque fois, je suis en mode, bah... Oui, j'ai pioché désert, donc faut que je joue là, parce que c'est les seuls choix que j'ai, en fait. Tu vois, je suis trop, trop contraint, c'est horrible.
Parce que, en fait, le truc aussi, qui est une règle à rappeler, c'est que quand tu places tes 3 maisons, t'es pas obligé de les placer en un seul groupe. Il faut que tu les places sur des déserts adjacents à des lieux que tu as déjà. Enfin, adjacents à certaines de tes maisons. Mais donc, si t'es adjacent à du désert dans le cadran bas à gauche et adjacent à du désert en haut à droite, t'as le droit d'en placer 2 en bas à gauche, une en haut à droite. Donc en fait, tu peux aussi, par des placements précédents, encore une fois, tout ça, c'est de la théorie, hein, parce que dans la pratique, bah, si tu tires plein de fois les mêmes, en fait, tu vas te créer des... Tu vas faire un gros cluster de maisons au même endroit et tu vas jamais... Il y a des parties où t'arrives jamais à sortir du même fucking cluster et c'est insupportable. Mais dans la théorie, en tout cas, tu peux te dire, ah ben là, chacun de mes coups, j'essaie de me poser à certains endroits et d'éviter de me faire des adjacences à trop de trucs. Comme ça, je me répartis un peu partout. Et comme ça, quand je tirerai un désert, eh ben, j'aurai le choix entre 3 cadrans où je pourrais me poser sur le désert. Et tu vois, où là, du coup, t'as un peu d'ouverture et t'es pas désert. Bah, j'ai que là où me placer. Voilà. Ah, bah, je me mets à côté de l'eau parce que l'eau rapporte des points. Là où je te rejoins, c'est que dans la pratique, mes parties ressemblent souvent à ça, malheureusement. Mais la théorie, je sais pas, toi, Bartou, justement, si t'as eu plus de...
Ah ouais, moi, Alors justement, en plus, moi, par rapport à ce que tu dis, c'est marrant parce que ça rejoint mon expérience de joueur, c'est-à-dire que j'ai eu une stratégie. Au début, je jouais, la première fois que je jouais, justement, j'ai eu des parties comme toi où tout à coup, tout était regroupé au même endroit et je me suis dit, ok, donc si je vois, encore une fois, un grand désert, j'y vais pas, je prends plutôt des petits espaces, ce qui fait que je le remplis vite et quand on me redemande du désert, je peux aller ailleurs et voire même, je me suis arrangé pour jamais en toucher, donc je me téléporte sur un autre cadran et ainsi de suite. Et maintenant, je suis encore revenu sur ça, en me disant, ça m'intéresse des fois d'être au milieu d'un grand désert, justement, pour partir, tu vois, en étoile et essayer de tout toucher, mais à juste un petit point précis. Alors que quand je fais, tu vois, je remplis une toute petite zone, je remplis plein de trucs que je voulais pas forcément, de forêt ou de trucs, et après, je suis obligé de continuer à cet endroit-là. Donc, je trouve que justement il y a une espèce de tension là-dessus sur est-ce que je choisis d'avoir un endroit que je remplis vite mais je touche des choses à côté qui m'intéressent pas ou est-ce que je me mets tout seul à un endroit et donc je repartirai forcément de là sans être contraint par la suite si je prends un autre type de terrain. Encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à chaque fois je joue mon coup en me disant comment je m'ouvre le plus de possibilités pour le prochain coup qui sera effectivement complètement hasardeux.
Et tu vois là, tu me fais penser, je me dis peut-être que moi j'aimerais mieux si par exemple en début de partie on avait déjà des petites maisons, mais genre dans trois endroits du plateau chacun, vraiment, ou dans, il y a quoi, il y a quatre cadrans, allez, une maison par cadran, tu vois.
Ouais, genre tu tires une carte de départ et t'as cadran 1, pouf, place-toi sur un champ de fleurs, cadran 2, place-toi sur un désert, etc.
Ouais, c'est ça, ou tu sais, des emplacements même déjà prédéfinis, m'en fous. Okay, ouais. Juste un truc où j'ai déjà cet espace de choix. Parce que là, en fait, j'ai l'impression, on revient sur Five Tribes encore.
Ah ouais.
Cette idée que, genre, mes premiers coups sont hyper importants et vont déterminer, comme ça, à long terme, tout le reste de ce que je vais faire.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme Five Tribes.
Ça, c'est assez bizarre.
Ouais, t'as un mur qui t'arrive au début. Il y a une lecture du plateau qui doit se faire. En plus, en fonction des objectifs, des pouvoirs. Ouais. Et là, tu dois te dire, vas-y, sur cette configuration-là, c'est quoi, avec ce que j'ai en main, c'est quoi le meilleur coup pour démarrer et démarrer sans savoir réellement la suite, quoi. Mais ouais, c'est long, là, ce temps d'analyse du plateau de début, de mise en place.
C'est amusant parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens reprochent à Dominion aussi.
Ah oui, la lecture du marché.
C'est le même auteur, tu vois. Mais voilà, effectivement, la lecture du marché, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent que, apparemment, quand tu regardes le marché à Dominion, tu vois, le tirage aléatoire des cartes, il y en a, ils savent déjà quel deck ils vont jouer, tu vois.
Ok, donc, oui.
Je suis pas d'accord avec ces gens-là, mais c'est aussi un reproche qui est fait à Dominion, donc je trouve ça assez drôle, tu vois. C'est peut-être une petite patte de Vaccarino qu'on retrouve ici, quoi.
Ouais, une mise en place un peu qu'on peut analyser avant de commencer à jouer, quoi. Ok.
Peut-être qu'on en reparlera peut-être plus tard dans le débat.
Peut-être. je vous propose qu'on passe. Alors, on en a un petit peu parlé des pouvoirs, mais peut-être justement s'attarder sur cela. Bartouf, tu disais qu'il représentait à la fois une espèce de truc où il faut aller à la fois pour bloquer les autres et tout, et parfois un peu de flexibilité. Est-ce que tu en retiens quelques-uns comme ça qui t'ont paru marquants et que tu arriveras à te rappeler de tête ou tu te dis ah ouais, ce pouvoir, je le prends à chaque fois quand il y a quoi.
Oui, il y a un pouvoir. Alors, en fait, il y a même certains pouvoirs. En fait, le jeu te le dit directement parce que, comme je disais, ils sont tous normalement en quatre exemplaires et il y en a deux qui sont qu'en deux exemplaires, ce qui crée une grosse tension quand tu joues à quatre dessus en te disant, oh la vache, celui-là, tout le monde l'aura pas, même si tu vois, on jouait tous un peu gentiment et que tout le monde arrive à choper un. Là, c'est pas possible. Numériquement parlant, c'est pas possible. Comme, en fait, le port. Le port qui te permet de bouger un pion sur l'eau, en fait. Tu déplaces un de tes pions et tu vas sur l'eau. Et bien sûr, arriver sur cette case où normalement tu ne peux pas construire en temps normal, des fois ça t'ouvre des choses. Du coup, tu réfléchis sur le long terme en te disant « Ok, je me suis mis là. Donc dans deux tours, vu qu'à chaque tour j'aurai déplacé mon petit truc, je serai arrivé juste à côté de cette petite île et je vais enfin pouvoir me mettre dessus parce que depuis le début, j'ai pas réussi à me téléporter parce que j'étais pas allé dessus et puis je peux pas parce qu'à chaque fois, la contrainte justement de l'adjacence fait que je ne peux pas arriver dessus. »
Si tu tires la bonne carte, quoi. Toujours.
C'est ça. Toujours la même chose. Mais en fait, port, du coup, okay. Tu te crées. Enfin, tu vois, la possibilité existe vraiment, alors que sinon, elle n'existait pas.
Ouais.
Après, sinon, il y a rien d'exceptionnel dans les pouvoirs. Hein. Je reconnais bien. Il y a. Ouais, mais toi, celle que tu retiens, vas-y.
c'est l'enclos, moi. Parce que l'enclos, il te fait sauter au-dessus d'une case. Et je trouve que justement, ça te permet, par petits bonds, d'aller chercher d'autres adjacences à des territoires, etc., de sortir de certains trucs. Ou bien, tu vois, si je suis dans un désert et que ça me fait être adjacent à un autre territoire et que j'ai pas envie, bah peut-être que je peux dégager la petite maison qui me crée cette adjacence pour me dire, ok, maintenant, si je tire une forêt, je serai plus adjacent à cette forêt, je pourrais me placer sur une autre forêt. Et pour moi, c'est celle qui apporte le plus de comment dire, le plus de liberté en fait et le plus de mouvement. Tu parlais d'un jeu un peu statique, puis on fait sœur, tu vois, je te rejoignais sur le côté où des fois t'as des clusters de maisons et c'est un peu chiant. Celui-là, justement, je trouve les autres, c'est plus. Puis on fait sœur, tu parleras peut-être un peu de leur classicisme, j'imagine, mais celle-ci apporte un peu. Et tu vois, t'as cité le port qui lui aussi est un truc de déplacement. T'as aussi la grange qui permet de se déplacer. Ça te permet de déplacer un bâtiment sur une case terrain joué. Alors ça te ralentit un peu dans la partie. Enfin, ça te ralentit pas. Mais c'est pas des. Parce que les autres, ça va être des accélérateurs de fin de partie souvent, puisque ça va te permettre de mettre plus de maisons. Mais ceux-là, c'est ce qui va te permettre de. Un petit peu. Hein, parce qu'on est quand même sur une ou deux cases. C'est pas un truc de fou, genre une mine, tu vois, où tu passes de l'un à l'autre. Je sais plus. C'est... Enfin, il y a des jeux comme ça où t'as des raccourcis et des mines et ça te fait aller dans un tout autre lieu. Mais du coup, c'est celle-ci que moi je trouve vraiment le plus fun parce qu'en plus tu peux un peu la comboter avec d'autres trucs parce que tu te déplaces de deux cases, puis paf, tu fais un port, puis poum, ça t'amène complètement, pas complètement autre part, mais suffisamment autre part pour un peu profiter puisque les pouvoirs tu peux les utiliser avant ou après hein, ton action de construction. Puis on fait sœur, toi justement sur les pouvoirs.
Non, effectivement, je les trouve absolument banales et sans personnalité puisque c'est toujours soit ajouter une maison. Soit en déplacer une au final. Alors, moi, je m'étais noté aussi, bah, comme Bartouf, le bateau, je le trouve marrant parce que.
C'est une exception à la règle.
Je trouve ça. Ouais, c'est vraiment exception à la règle, mais c'est comme ça que tu fais des pouvoirs sympas.
Ah ouais.
C'est quand tu fais des exceptions à la règle.
Même dans et la règle, c'est franchement, écrit, c'est la seule façon de construire un bâtiment sur l'eau. Et tu vois, ça veut dire quelque chose d'ailleurs.
C'est trop bien. Et il aurait pu faire d'autres trucs que juste du placement. Il aurait pu dire tiens, j'ai un pouvoir qui me permet de changer la carte que je viens de piocher, par exemple. Ou qui me permet d'aller détruire des bâtiments adverses, tu vois, des trucs comme ça, ou déplacer juste les bâtiments adverses, j'en sais rien. Ou,
changer un objectif de partie, boum, à la fin de la partie.
Bah ouais, ou j'ai un petit objectif de partie personnel. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs à inventer, je suis sûr. Et alors peut-être qu'on va me dire ils sont dans les extensions, j'en sais rien, mais en tout cas dans le jeu de base vraiment ils sont pas du tout mémorables. Après c'est pas le seul truc que je reproche à ces pouvoirs là, c'est leur existence même. Je me pose la question de pourquoi Donald Vaccarino il a fait ça, parce que on voit bien qu'il y a un effet boule de neige à les posséder puisque c'est un pouvoir que vous déclenchez à chaque tour. Donc l'obtenir dès le début, c'est super fort en fait.
T'es pas obligé de l'utiliser cependant, mais bon.
Ouais, mais c'est du potentiel puissance supplémentaire relativement aux adversaires. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un peu forcé qu'à un moment donné dans la partie, on ait une sorte de puissance dissymétrique entre les gens en fonction de qui possède le plus de pouvoir, quoi. Et je me demande s'il a pas fait ça parce qu'il se disait... Ah mais dis donc, mon jeu il est hyper froid et calculatoire, donc il va falloir que je crée une espèce de petite justement asymétrie entre les gens, et du coup c'est hyper inélégant de faire comme ça parce que à la fin ça donne un truc qui peut finir sur des parties complètement déséquilibrées, mais artificiellement quoi, juste parce que il s'avère que dans le placement et le tirage aléatoire j'ai pu choper plus de trucs que les autres quoi. Donc moi c'est un peu ça qui me dérange dans ses pouvoirs, c'est plus le fait qu'on finit un peu par hasard par être celui qui a le plus de pouvoir et du coup on a beaucoup plus de chances de gagner quoi. C'est un peu bizarre. J'aurais mieux aimé que tu vois par exemple ce soit des pouvoirs qui soient distribués aléatoirement en début de partie, puis on en a tous autant chacun et puis voilà quoi.
Presque un sentiment de win to win un peu. Déjà t'as réussi
boule de neige,
t'as eu de la chance au niveau du tirage. Alors ce qu'on disait dans la première partie, tu peux essayer de créer ta chance en faisant des placements un peu ou potentiellement ça va te permettre d'être plus flexible, reste que c'est déterminé par le hasard de la carte que tu tires. Donc peut-être tu as eu un peu plus de chance, ça t'a permis d'avoir plus de pouvoir, ce qui va t'apporter plus de flexibilité et en plus te faire aller plus vite, donc poser plus de bâtiments, ce qui fait beaucoup d'avantages petit à petit quoi. À la fois la flexibilité et le fait de poser plus de bâtiments, ça permet souvent de compléter des objectifs de meilleure façon que les autres quoi. Sachant que moi je trouve ça intéressant le côté où ça change le rythme de partie, où t'as une notion, bah, comme dans les Aventuriers du Rail, tu vois, quand t'approches des quelques wagons fatidiques, t'as un peu de tension qui commence à monter. Et je trouve que dans le Kingdom Builder, il y a un moment où tu sens que ça s'accélère, et où tu dis, ouh, punaise, maintenant, là, il pose 6 maisons par tour. Ok, il n'y a plus beaucoup de tours, et ça, oui, c'est intéressant en termes de rythme.
Dans l'absolu, je ne suis pas contre les effets boule de neige. Hein. Y a plein de jeux de société ou de jeux vidéo qui sont très bien, qui utilisent, oui, oui, très bien ça.
On parlait dans les jeux d'arcade.
Ouais, mais ou les MOBA, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Mais je trouve que là, c'est vraiment très artificiel, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que ce snowball, déjà, il est injuste, il n'est pas mérité. Mais en plus, il est mis un peu comme ça. Ça ressemble à la règle qui a été rajoutée après, tu vois. Mm. Je trouve pas très beau.
Ouais. Alors moi, je te suis sur le fait que effectivement, ça serait tellement mieux si ça y avait encore plus de personnalité sur les pouvoirs. Mais là où je suis pas d'accord avec toi sur le fait que ça serait un truc rajouté et que voilà, c'est pas si mérité que ça, enfin, ou que ça n'a pas si important que ça, c'est que bah si justement sur ce que je disais peut-être au début, c'est cette tension entre est-ce que je vais au château ou est-ce que je vais sur le pouvoir. Tu vois, quand tout à coup j'ai des choix qui se posent sur je peux me téléporter sur ça et donc j'ai le choix entre ça et ça, et c'est le cas au début, puis ça arrive d'autres moments dans la partie. Et ben il y a une tension toujours à ce moment-là que je trouve moi intéressante et où t'es jamais tout à fait sûr. Et tu vois, j'en ai encore fait une partie la semaine dernière et j'ai une copine qui a préféré aller sur les châteaux et j'étais là genre bah, t'es folle, vas-y, va sur les pouvoirs, c'est trop bien, et elle nous a éclaté de 20 points à la fin, quoi. Et c'était à ce moment-là, c'était bien vu et oui, c'était et le truc à faire, en fait. Elle les a eu un peu plus tard, ses pouvoirs, mais elle avait assuré le gros des points là et boum, quoi. Et en plus, sachant que, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est quand même le jeu où, une fois que les places sont prises, elles sont prises. Mmh. Vu qu'on se déplace pas, on ne se détruit pas. Donc, dès que quelqu'un s'est placé quelque part, c'est un endroit où, s'il a fait les points là, plus personne d'autre ne fera les points. Donc, la course est quand même toujours là. Donc, aller chercher un pouvoir, oui, c'est fort. Mais quand tu fais ça, tu fais pas autre chose.
Et alors, okay, juste ouais. À titre d'anecdote, hein, parce qu'effectivement, ça, c'est presque un aveu du côté un peu pauvre des pouvoirs du jeu de base. T'as le carrefour dans l'extension Nomade. Alors Nomade, tu vois, ça promet quelque chose quand même. Ça promet justement un peu moins de sédentarité, un peu moins de statisme dans le jeu. Même si moi, j'ai eu des parties quand même où les pouvoirs cumulés ont fait que il y a des personnes qui arrivent à se déplacer pas mal sur le plateau et à vraiment se créer ce fameux effet de cascade qui enlève un peu du statisme dont tu parlais. Mais donc t'as le carrefour, en gros, ça te dit, là ça parle, c'est un peu... le côté un peu plus de choix au niveau des territoires. À la fin de ton tour, tu tires une carte de plus. Donc voilà, ça te permet d'avoir deux cartes. C'est la variante dont on parlait au début, potentielle. Hein. Voilà. Et par contre, tu défausses des deux cartes de terrain, mais ça te permet de voilà, avoir deux choix au lieu d'un. Ce qui est quand même pas négligeable. Hein. Tu gagnes 100% de choix.
J'ai inventé le pouvoir qui existe déjà.
Ouais. T'as la caserne, elle est un peu nulle. C'est juste, en fait, c'est un pouvoir de blocage où tu poses un guerrier, il n'y a pas le droit de se construire à côté. Ça me paraît plus anecdotique. Par contre, t'as deux pouvoirs, le chariot et le phare, où alors t'as toujours l'histoire de, si possible, tu dois construire adjacent à une de tes cités. Mais par contre, après, en fait, le chariot et le phare, c'est pareil, mais pour un bateau, donc sur de l'eau. C'est soit tu places ton chariot sur une case constructible libre, blablabla, ou une case de montagne. Ou bien tu déplaces ton chariot 2-3 cases adjacentes. Et en fait, tu peux après construire des cités adjacentes à ton chariot. Et tu vois, 3 cases, c'est quand même une de plus que le meilleur pouvoir du jeu de base. Tu peux le reprendre pour le remettre à un autre endroit. Tu vois, il n'est pas fixé sur le plateau toujours. Ça te coûte l'action chariot, mais plus tard, tu vas pouvoir te redéployer ailleurs et puis un peu te déplacer. Tu vois, ça me paraît des pouvoirs qui font un peu forme d'aveu sur « Ah ouais, mon jeu, on bouge peut-être pas assez, c'est peut-être un peu trop statique, ce que tu disais. Faisons des pouvoirs qui vont permettre un peu plus de déplacement. » Ce qui va avec la thématique du nomadisme. Hein, donc voilà. Bon, c'est à titre d'exemple, hein, c'est dans l'extension, mais ça me paraissait intéressant de le mentionner au titre... c'est dans Crossroads, ça, pardon, c'est pas dans Nomads. Au titre de ce que tu disais comme défaut, que peut-être, tu vois, ils s'en sont aussi rendu compte eux de leur côté, quoi.
Ouais, et puis c'est logique de la part de Vaccarino, même si tu penses en termes de sa carrière, c'est-à-dire revenir toujours sur le même mécanique de départ et repenser des nouveaux pouvoirs, qu'est-ce que je peux faire. Enfin, tu vois, c'est la même chose qu'il fait avec Dominion, qu'il a développé et qu'il développe encore. tu vois, en imaginant toujours des nouveaux pouvoirs, quoi.
Autre chose sur les pouvoirs ou du fait qu'effectivement la plupart sont quand même assez un peu plan-plan, quoi, hein, et permettent un peu de des trucs de rythme, mais c'est vrai que c'est pas l'éclat, quoi. Sinon, on peut passer aux objectifs, du coup. Les fameux. Ouais. Les fameux objectifs donc, qui sont sortis. Donc, t'as toujours l'objectif des châteaux, hein, dont on parlait. Sachant que c'est chaque château te rapporte 3 points. C'est 3, hein, c'est ça. Si au moins une de tes maisons est à côté. Donc, c'est, ouais. Les entourer, c'est juste bloquer l'accès. C'est pas multiplier ton score par autant de fois que tu l'as touché. Voilà. Le garder à l'esprit, c'est t'as un nombre limité de, je sais pas, 15 ou 18 ou 21 points fixes. Ce qui est pas négligeable, mais voilà, c'est pas aussi bourrin que ça. Donc ça, c'est un objectif qui va être tout le temps là. Et sinon, il y en a 3 qui vont être tirés au hasard, qui peuvent être dans tous les cadrans. Tu vas essayer d'être réparti dans tous les cadrans parce que tu vas multiplier par 3 pour chaque maison que tu as dans le cadran où t'en as le moins. Règle un peu à la Knizia. Tu vas prendre la ligne horizontale où t'as le plus de maisons et chaque maison va te rapporter un point. T'as ça aussi pour la verticale. Bref, il y a des scoring comme ça. Il y a, je l'ai dit, se placer à côté de l'eau, se placer à côté d'un lieu ou d'un pouvoir. Donc ça renforce le fait de. Bref, des objectifs comme ça. Il y en aura 3 qui, je l'ai dit, parfois sont complémentaires, parfois sont contradictoires. Bartouf, sur les objectifs, toi, qui sont quand même. On a parlé des châteaux, mais c'est quand même la manière principale de marquer des points.
Oui, oui, on est bien d'accord, c'est là-dessus. Ça rejoint ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire que là, c'est à toi, en début de partie, d'avoir une lecture importante de ces objectifs et de toujours les avoir en tête en te disant c'est ça qui va. Et par contre, et c'est là où c'est des fois embêtant, c'est que certains s'annulent les uns les autres. Y en a qui te proposent de faire plein de petites colonies partout, donc tu vois... t'es pas un gros ensemble. À l'inverse, il y en a un qui dit ton plus gros ensemble, on va compter les points sur les chacun bâtiments. De tes de ton lot de deux bâtiments qui sera dessus. Et du coup, quand tout à coup ces contradictions arrivent, autant toi quand les trois objectifs sont différents et donc tout le monde essaye un peu de faire ça et donc on se marche un peu sur les pieds là-dessus. Quand tout à coup ces pouvoirs-là contradictoires arrivent, je dois avouer que ces parties-là sont pas toujours moi mes préférées parce que t'as une contradiction et que tu sais plus vraiment qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et là, le calcul de qu'est-ce qui vaudrait le plus de points, là, ça me fait rentrer dans une spirale de calcul dont Pionfesseur parlait sur Five Tribes, qui est relou parce que là, t'as plus aucun feeling et t'es juste en train de te dire, attends, mais là, si vraiment je veux calculer ce qui vaut le coup, ça va me prendre je sais pas combien d'heures. Vas-y, c'est nul. Et ça, là, j'avoue, c'est le seul truc qui, moi, à chaque fois, limite même des fois, j'ai envie de dire, ouais, on fait le tirage, là. Ces deux-là, ils vont l'un contre l'autre. Moi, ça me va pas. Mais bon. Voilà.
Et t'en retiens un, même question pour les pouvoirs. Il y en a un que tu retiens particulièrement de pouvoir, d'objectif.
Eh ben, justement, celui qui te demande d'avoir des petites colonies partout et qui te force à, justement, devoir pouvoir te télétransporter un peu partout et ne jamais que tes colonies tout se touchent. Ça, je trouve que c'est un beau challenge. Enfin, tu vois, c'est vraiment dur
c'est les ermites,
à atteindre celui-là. Et du coup,
l'ermite. Et je trouve que c'est un objectif qui te fait rendre compte de quelle dynamique tu devrais essayer idéalement d'avoir dans le jeu. Souvent, au-delà des autres objectifs qui peut-être sont en opposition à ça, mais cet objectif te dit comment je peux utiliser le système très contraint. Pour essayer quand même de mieux scorer sur cet objectif-là, quoi. Pionf, toi, sur les objectifs, et pareil, si t'en as un qui t'a marqué positivement, négativement ou quoi, mais de manière générale, d'abord.
Pour rebondir juste sur ce que Bartouf, tu disais, moi, tu vois, j'ai rien contre le fait qu'effectivement, on puisse sélectionner les objectifs en début de partie. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi que dans tous ces jeux où il y a un tirage aléatoire, c'est pas très grave si, genre, il y a 2% des parties qui sont mauvaises, et au pire, c'est pas grave, on refait un tirage, tu vois. C'est ce qu'il y a dans Dominion, c'est ce qu'il y a dans Elysium. Tu sais, ils proposent des espèces de combinaisons déjà toutes faites. Y a pas ça dans Kingdom Builder ?
Et non, et ils proposent pas dans Kingdom Builder, justement. Ils donnent pas un petit scénario en disant, ah, bah, vos parties seront plutôt orientées comme ça, ou comme ça. Ouais. Ce qui aurait été intéressant, effectivement, ce qu'ils font, ce qu'ils fait dans Dominion, en disant, bah, allez, voilà, ça, c'est la partie pour découvrir. Ça, là, ça va jouer méchamment sur les malus, ou, bah, voilà, où ils proposent comme ça des espèces de scénarios un peu.
Et dans la mise en place, ils proposent pas non plus, effectivement, du, si ça vous va pas, refaites un tirage. Il s'est pas écrit, en tout cas.
Mais en tout cas, moi, c'est là que je reprends mon argument de tout à l'heure quand je parlais de la patte de Vaccarino. Je me demande si justement c'est pas son obsession là de vouloir générer une espèce d'aléatoire de début de partie, sûrement pour vouloir chercher à renouveler les parties. Hein, on a dit que dans Dominion il faisait ça pour le marché, mais j'avais joué aussi à Nefarious, où t'expliques les règles, c'est un genre de petit Rise for the Galaxy hyper light, on va dire. Sauf que en début de partie, tu pioches deux cartes et c'est deux règles qui changent complètement le jeu, quoi. Okay. Et du coup, je trouve ça assez drôle parce que dans Dominion, tu vois, c'est hyper intéressant parce que vu que c'est un jeu de deck building et qu'on tire genre 10 cartes, le but, ça va être de chercher un peu les combos, tu vois, entre ces cartes-là. Dans Nefarious, là c'est plus le côté un peu osé, tu vois, de changer les règles, de se dire, bah voilà, d'une partie à l'autre, t'as presque l'impression de pas jouer au même jeu parce qu'il y a deux règles qui sont complètement random dedans. Et du coup, je retrouve pas cette espèce de folie qu'il y a dans ces jeux-là, dans le tirage des objectifs de Kingdom Builder, parce que au final, tous ces objectifs font un peu la même chose, c'est te dire, voilà comment tu dois te placer, et à la fin, ça te fait des points, tu vois. Et au fond, en fait, même si c'est des manières de faire différentes, je trouve que les cartes font un peu toutes la même chose. Alors peut-être que c'est parce qu'elles n'ont pas assez de personnalité, mais je pense que ça vient pas de là. Je pense que ça vient vraiment du fait que c'est des scoring, quoi, qui sont aléatoires et que au fond, changer le scoring, ça change pas la dynamique du jeu. Et même quand tu parles des nomades et tout ça, moi je suis intimement persuadé que même avec les nomades, j'aimerais pas le jeu parce que Bartouf a parlé de feeling tout à l'heure. Justement, j'ai l'impression que je ne jouerai jamais au feeling à ce jeu, en fait. Je serai toujours dans des vieux calculs parce que, quelles que soient les cartes d'objectif, ça finit toujours par être, ah ben là, tu mets tant de points, là, tu mets tant de points, là, tu mets tant de points. Et donc, je vais faire toujours ces calculs-là, que ça soit pour réunir mes maisons ou pour les dispatcher. Au final, je ferai des calculs de points absolument chiants et inintéressants. Ouais. Comme j'ai parlé de Trans-Europa ou Trans-America tout à l'heure, dans ces jeux-là, j'ai beaucoup plus un sentiment de feeling parce que justement, j'aime bien me dire que dans Trans-Europa, c'est comme une genre de rivière qui va couler, tu vois, et que je dois essayer de me placer au bon endroit où je pense que la rivière va couler. Alors c'est un peu bizarre expliqué comme ça, mais si vous avez déjà joué à Trans-Europa, je pense que vous ressentez ce truc-là.
Dans Fantasy Realms aussi, je sens peut-être. Fantasy Realms peut être joué aussi un peu au feeling comme ça.
Pas du tout, parce que Trans-Europa, ça se joue à plusieurs. C'est ça le truc, c'est que t'es dans un réseau commun. Oui, okay. Donc tu dois essayer de sentir vers où ça va se construire, tu vois. J'ai déjà ressenti ça dans d'autres jeux, mais c'est vraiment celui où j'ai le plus ce sentiment-là, tu vois, où j'ai le sentiment de la manière la plus pure, on va dire. Mais il y a pas mal de jeux comme ça où, tu sais, t'as un plateau commun et tu dois essayer de te placer vers là où tu sens que ça va, que ça va être, quoi, tu vois. Attends, je réfléchis si j'en ai un qui me vient.
Je pense plus en fait à des shared incentives genre Botswana ou Wildlife Safari de Knizia ou même les 18XX ou les Cube Rails, tu vois, où faut sentir quelle entreprise va rapporter et espérer que ça te rapporte un peu plus que les autres, et puis au contraire sentir quand elle va un peu s'écrouler, tu vois. Mais du coup, ça rejoint pas le côté plateau et spatial dont tu parlais qu'il y a dans Kingdom Builder, quoi.
Ouais, c'est vrai. Peut-être Blue Moon City éventuellement, où tu dois sentir vers où ça va se construire, mais c'est pas à ce point-là. Je mettrai dans le billet. Voilà, ça me reviendra plus tard, je pense, et je mettrai dans le billet pour ce sera lu en commentaire pour la.
Est-ce que t'arriveras à dormir cette nuit?
Non, je crois que là, je vais penser à ça toute la nuit.
Aïe.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans tous les cas, je joue pas au feeling. Je suis en train de faire des putains de calculs. Ouais. C'est ça
pour des points.
La morale du truc.
Oui.
Ouais, moi, il y en a un, et en plus, des fois, les calculs sont chiants. Je parlais de celui où faut que tu comptes un peu dans chaque cadran combien t'as de maisons. Putain, quel enfer, hein. Et pour le coup, en plus, ça pourrait être sur BGA, tu vois, un petit truc où il dirait là, t'attends dans ce cadran et tout, ils l'ont pas mis, alors que ça serait tellement pratique. Parce que compter, pareil, t'as aussi un objectif, les seniors, où c'est de la majorité, tu sais, pour chaque cadran, la personne qu'on a le plus gagne X et tout. Et c'est pas agréable à compter les maisons. Alors tu peux essayer de t'en faire une idée. Enfin, si, à deux, tu arrives. Si t'as une majorité écrasante, tu le vois. Mais dès que t'es quatre, si c'est à une ou deux maisons près, je trouve ça un peu chiant. Il y en a un autre qui me fait penser à Duknesia, c'est les marchands. Où tu sais, il faut que t'essayes de relier entre eux les différents points d'intérêt. Et j'ai un peu l'impression d'un jeu de connexion comme ça, tu sais, où tu fais, bah, un peu
Ouais.
comme, enfin, je parlais de Sur The Desert, où pareil, tu fais ta caravane. Il y a un peu ce sentiment-là de cette caravane. C'est pas un objectif que je trouve très intéressant, mais disons qu'il valorise pas mal le côté de construire un peu tout le temps au même endroit, puisque bah, tu vas petit à petit faire ton petit trajet et ta caravane de lieu en lieu comme ça, et par adjacence petit à petit, quoi. Même si des fois, ben, du coup, il faut se dire, bon, bah, cet objectif-là, je le laisse de côté pour cette partie, et puis tant pis, quoi. Mais ouais, il y a quand même comme ça quelques objectifs que je trouve intéressants aussi. Les ermites, t'en parlais.
C'est vrai que tu m'as demandé lequel m'avait le plus
Ouais.
marqué, je t'ai pas répondu. Moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est je sais qu'il y en a deux comme ça, un qui score en ligne et un qui score un peu
Ouais.
en colonne comme ça.
Je crois que c'est. En fait,
Ça
j'ai
m'a.
regardé, c'est que ligne, mais en
Ouais.
fait, c'est parce que c'est deux objectifs différents. T'en as un, c'est tu prends la ligne où t'en as le
Oui.
plus et tu fais 2 points par bâtiment, ou bien c'est 1 point par ligne où t'as au moins un bâtiment. Ou du coup, il faut que tu construises
Oui.
une colonne. Ouais, c'est ça.
En fait, voilà, faut faire des colonnes au final. Mais du coup, ça m'avait juste marqué parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, elle est vachement grande la ligne. Là, tu vois, on est plus sur
Oui.
de la mise en scène. Tu vois, de me dire,
Le royaume est
physiquement, je
grand.
trouve ça. T'as un gros royaume et tu dois essayer de mettre un maximum de maisons sur toute cette grande ligne. Je sais pas, ça m'avait marqué, en fait, ce truc-là,
Ouais,
quoi.
c'était
Du
marrant.
fait de la taille, plus, tu vois, que du fait que ce soit original.
Et les pires, c'est vraiment les pêcheurs là où il faut. Enfin, tous ceux où il faut dire c'est 1 point par maison construite de près de tel truc, quoi. Parce qu'en plus, du coup, c'est. Ça renforce le côté où tu te dis, bon, ben, je me fais chier à mon tour, je vais me poser là. Et y en a une juste pour. Tu parlais un peu de trucs d'inélégance. C'est l'inverse des ermites, donc dont tu parlais, Bartouf. Les citoyens, où du coup il faut voir ton plus grand village, tu vois. Et plutôt que de te faire genre 1 point par maison, non, non, c'est le nombre de bâtiments divisé par 2 arrondi à l'inférieur. Tu sais, t'as toujours ces petits trucs à la con qui viennent, alors qu'en fait ça pourrait juste être le nombre de bâtiments. Après, c'est là aussi, j'imagine, pour des questions d'équilibre. Mais
Ouais.
si tout le monde a le même objectif, ben ça marche. De toute façon. C'est des petits points comme ça, comme l'histoire des pouvoirs, que je trouve pas très élégant, et que je me rappelle que dans ces objectifs, c'est là où il y avait des gros soucis de traduction aussi, où tu es là et tu disais, mais ça veut rien dire. Autre chose sur les objectifs, ou l'un ou l'autre?
Non, moi, il n'y a rien de plus que je
Non?
vois.
Ouais, pareil, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si pour les jeux où tu dois sentir un peu les
Ah
trucs,
yes, tu pourras dormir.
je peux citer Indigo, où j'ai un peu ce sentiment-là,
Ah,
ou Tsuru
incroyable.
aussi, où tu as l'impression de diriger, tu vois,
Ouais.
les pierres ou
Indigo
vers
qui
des
ressort.
endroits
Ne passez pas à côté. Hein. Il
ouais,
ressort sous un autre nom,
qui
mais.
va être réédité.
Ouais. Avec
Ouais.
des papillons.
Et tu as peut-être ça aussi avec Karuba, tu vois, cette espèce de. Bon, là c'est un peu différent, mais tu essaies de construire des chemins et tu essaies de dire, ok, là j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse un croisement parce que c'est là que mes bonhommes vont se croiser, tu vois. J'ai un peu ce sentiment-là aussi, mais bon, c'est un sentiment que je trouve dans plein de jeux en fait, hein. Tu pourrais même avoir ça dans Catan, tu vois. Tu te dis, ah, je vais construire mes routes par là parce que j'ai
Parce
l'impression que c'est
que
par là que
ouais,
c'est le meilleur spot,
c'est
tu
là
vois.
que ça se passe.
Mais voilà, c'est pas trop ce que t'as, je trouve, dans Kingdom Builder, tu vois. Justement, c'est plus tu calcules, c'est pas tu sens, tu vois.
Non, ouais.
Bandido aussi.
Ah oui, Bandido est complètement.
Eh ben écoutez, si on a terminé sur les trois axes un peu comme ça, on peut passer à la conclusion si vous voulez, pour donner. On a donné un avis au début. Bartouf, est-ce que tu veux à la fin donner ton avis final, qu'il ait évolué ou pas, ou voilà, juste pour faire une rapide conclusion, quoi, en fait.
Oui. Ben, alors, moi, ce que je retiens par rapport au professeur, c'est moi, je trouve que c'est l'intérêt est justement de toujours faire une espèce de pari, comme je disais, et de voir des coups d'ouverture pour le prochain coup. Toujours penser comme ça. Et j'ai pas du coup l'impression de subir le jeu, même si je le subis et de fait. Mais je veux dire, voilà, j'ai toujours mon objectif est toujours d'essayer de trouver une solution pour la suite. Et puis ce que j'y trouve, par contre, et ce qu'on peut trouver comme une faiblesse aussi, mais c'est ce qu'on disait là sur les pouvoirs et sur même les manières de scoring, c'est du classique à l'allemande. Même si c'est Donald Vaccarino, X Vaccarino qui le fait, pour moi, c'est un classique, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui s'y passent. C'est pas dingue, effectivement. Les pouvoirs sont pas, voilà, c'est loin d'être en conte cosmique, mais ça marche extrêmement bien et ça marche encore heureux, mais tu y trouves du plaisir, t'as du plaisir à râler en te disant « Oh mais non, vas-y, c'est 3 fois que j'ai du désert, j'en ai marre, c'est pas possible. » Et en même temps, tu peux trouver un moyen d'essayer de contrer ce hasard et d'avancer. Et ça fait aussi un jeu qui est une bonne porte d'entrée. Je vous disais là, je me suis fait éclater par une copine il y a 2 semaines. C'était la première fois qu'elle y jouait. Enfin, je veux dire, c'est un jeu que moi je me suis retrouvé souvent dans des différentes associations quand j'ai déménagé. Et à chaque fois, quand j'ouvrais un truc, une nouvelle association en campagne, eh ben, je faisais jouer à ça aux gens comme premier jeu, quoi. Ça faisait partie des premiers jeux que je faisais jouer. Comme souvent chez Queen Games. Il y a un côté, effectivement, c'est presque même un maître étalon des propositions Queen Games, quoi. Le jeu classique à l'allemande voilà, des règles pas trop compliquées mais qui sont suffisamment intéressantes pour qu'on...
Du moment que c'est toi qui lis la règle, qu'ils ont pas à lire la traduction française de l'époque, quoi, parce que là en termes d'accessibilité et d'entrée ça te mettait dehors, quoi. Mais c'est indépendant du jeu en lui-même et des dynamiques qu'il développe. Pionf,
moi ce que je retiens de la conversation c'est que j'avais pas fait le rapport en fait avec Five Tribes. Bon là c'est peut-être parce que c'était la dernière émission, mais je pense qu'il y a un réel rapport entre la manière dont conçoit ces jeux Vaccarino et Five Tribes. C'est comme on a dit que il y a ce gros truc de début de partie à chaque fois et qu'on a dit qui se retrouvait chez Dominion aussi, sauf que justement bah là moi je préférais vraiment dans Dominion ou dans Nefarious où c'était pour créer quelque chose de plus proche d'un jeu à l'américaine en fait, hein, finalement, puisque comme on a dit effectivement les combos, ça fait penser à Magic, hein. Quand on a pensé deck building, on pensait à Magic tout de suite. Nefarious, changer les règles, effectivement, ça fait penser à Rencontre Cosmique. Et je pense qu'effectivement, Bartouf, je vais te rejoindre là-dessus, c'est que Kingdom Builder, du coup, ça va être plus emprunté au jeu à l'allemande. Et donc, du coup, le fait que ce soit des objectifs, moi, ça me fait vite chier, c'est hyper calculatoire. Et pourtant, j'aime les jeux à l'allemande, hein, mais là, en fait, je trouve qu'il est peut-être pas fait pour faire des jeux à l'allemande. En fait, cette patte de Vaccarino, je vais pas l'aimer dans des jeux à l'allemande. C'est vraiment une alchimie qui, pour moi, marche mieux dans des jeux, on va dire, entre guillemets, à l'américaine, parce que je pense que beaucoup de gens diraient que Dominion n'est pas à l'américaine. Et donc, voilà.
Il faut qu'il laisse à Knizia ces jeux ce genre de jeu de placement simple.
Ouais, c'est ça. Knizia, en fait, arrive beaucoup mieux à faire des trucs de fou à partir de dynamiques simples. Et surtout, ouais, dans des jeux de placement, parce que là, du coup, comme on l'a dit, c'est vraiment trop du placement, c'est hyper froid, on se pose et puis on bouge plus, quoi.
En même temps, il l'avait peut-être fait pour le Spiel aussi. Bon, après, Dominion avait gagné le Spiel, donc mais peut-être que tu vois, il s'est dit, ouais, je vais faire un deuxième Spiel, et c'est vrai que c'est un jeu. J'ai l'impression que c'est un truc qui plaît pas mal, tu vois. Il y a cette image un peu de. Ouais, très allemand et très froid et très.
Ouais, mais je sais pas, parce que moi, à la base, il y a plein de jeux à l'allemande que j'aime. Hein.
Ouais, bien sûr, ouais.
Moi, j'y retrouve aussi un goût de Kramer et Kiesling là-dedans, mais dans celui qui propose, on en parlera là, mais de Savannah Park ou Caldera Park, pareil, où t'es dans une espèce d'optimisation. En fait, tu sais pas quelle sera la suite, mais t'espères que ce que tu viens d'ouvrir, ça va te permettre des choses pour la suite.
Si je peux me permettre une take, je dirais, on y retrouve plus du Kiesling que du Kramer.
Oui.
Oui.
Vous analyserez ça dans votre tête chez vous.
Ouais, pensez que Kiesling c'est le cas de Azul, voilà.
De Azul. Regarde ce qu'il a fait. Enfin, il y a carrément du Azul, tu vois là. Ouais. En fait.
Ou inversement pour le coup, il y a carrément.
T'as plus du Azul que du Siski prend, tu vois.
Ouais, clairement.
Mais voilà, mais si je peux lâcher une dernière formule, je dirais. Si j'ai envie de faire des placements calculatoires, je vais voir mon banquier, tu vois.
Ok, mais sauf que, ouais, lui, il va chercher à t'enfler. Plus peut-être que le jeu de Vaccarino, c'est peut-être la différence.
C'est vrai.
Moi, ouais, sur l'accessibilité, tu parlais, Bartouf, en termes d'entrée, moi, j'avais fait jouer à des gamins qui n'ont, en classe, donc des gamins qui ont un rapport au jeu de société assez distant, de CE2, à peu près à la sortie, d'ailleurs, un peu après, c'était en 2013, et alors autant ils ont bien assimilé, tu vois, le côté, j'ai une carte, je me place dessus. se rajouter là-dessus l'adjacence, qui est une contrainte de plus, une règle de plus, qui déjà faisait un mur de plus à capter, que parfois, ils jouaient naturellement sans cette règle-là. Il fallait le rappeler à chaque fois. Par contre, la notion d'objectif, qui est le cœur du jeu, puisque c'est comme ça que tu gagnes des points, tu vois, eux, ils avaient compris l'histoire des châteaux, parce que c'est visuel, c'est sur la table. Ok. Les objectifs, c'était beaucoup trop à côté, tu vois, en termes de, là aussi, de mise en scène, de placement matériel sur la table. C'est des petites cartes, ils sont placés d'un côté du plateau et tout, ils sont pas forcément... Enfin, il y en a trois, donc se rappeler des trois, c'est pas forcément simple. Moi, les gamins, à 8 ans, hein, pourtant, hein, où je pense que le jeu, il doit être donné pour 8 ans, hein, je sais pas, mais tu pourrais te dire qu'en termes de système de jeu, en tout cas, c'est OK. Pour moi, là-dessus, pourtant, sur un système aussi simple, les gamins étaient largués, quoi, parce que ça faisait trop de choses à prendre en compte, alors que déjà, il fallait se réfléchir à son placement, quoi. Et c'est la petite limite que je mets sur le côté simple du jeu en termes d'enjeu, qui permet de gagner en fait, parce que c'est bien de se placer, mais à un moment, si tu le fais juste pour te placer autour des châteaux, ça marchera pas. Et du coup, c'était un peu du pifomètre, quoi. Ils jouaient, eux, pour le coup, complètement au pif, parce qu'ils oubliaient les objectifs, en fait. Et peut-être que, tu vois, matériellement, en termes de ergonomie, ça pourrait être plus clair quels sont les objectifs pour qu'ils t'apparaissent un peu plus à la tronche, ou que ce soit des objectifs. D'ailleurs, la plupart sont spatiaux, et pourtant, ils sont jamais représentés sur le plateau, en fait. C'est un peu dommage. Et sinon, moi, ouais, en fait, c'est un jeu un peu comme Five Tribes, tu vois. Je disais que j'en ai refait une partie récemment de Five Tribes et que ça a un peu baissé dans mon estime. Et je pense que Kingdom Builder, un petit peu aussi. Ça a peut-être un peu vieilli aussi, tu vois. Après, moi, j'avais déjà joué à d'autres jeux à l'époque. Et je trouve que. Je trouve qu'il est plus élégant et plus sympa dans sa théorie que dans sa pratique. Parce que dans la pratique, moi, il y a beaucoup de parties où je me suis retrouvé, comme le professeur disait, un peu trop statique, un peu trop. Même si j'essayais de me créer mes propres opportunités et que j'essayais. En fait, des fois, la pioche fait que, tu fais ça et je m'amusais pas beaucoup dessus, quoi, malheureusement. Et du coup,
Ce que tu dis, le coup de la théorie qui a l'air plus élégante, parce que je me suis, tu sais, presque auto-gaslight, tu vois, en relisant les règles de Kingdom Builder, en me disant, putain, merde, en fait, ça se trouve, j'aimais juste pas à l'époque, et en fait, ça a l'air quand même pas trop mal. Puis c'est vraiment en y rejoignant que m'est revenu à la gueule, tu vois, cette règle de, oh, mais oui, putain, je déteste le fait qu'on puisse se mettre adjacent à ses propres trucs, c'est nul.
Ouais.
Ça a vraiment fait ça dans ma tête.
Ouais. Donc voilà, il faudrait qu'il fasse un jeu avec Knizia où lui il fait les pouvoirs et Knizia fait les règles, le reste. En tout cas, on a fini avec Kingdom Builder. On attend, merci à tous les deux pour cette discussion autour du ressenti et de pourquoi on ressent les choses de telle manière.
Merci à toi, Flavien.
On vous attend dans les commentaires, du coup, pour parler de votre Vaccarino préféré. Dites-nous si vous avez essayé d'autres Vaccarino que justement Dominion et Kingdom Builder. Moi, c'est vraiment un jeu, tu vois. Ouais, c'est pas mal, mais un spiel pour ça, quand même, peut-être pas, faut pas abuser, quoi.
Ouais. Ce qui est intéressant, par contre, en descendant de ce jeu-là, moi je trouve que là où il a ouvert la porte, et je préfère certainement ce qu'il a ouvert comme porte, c'est la Guilde des Explorateurs Marchands.
Oh. On pourra en reparler
pour moi,
si tu veux, dans un autre
c'est,
le poil.
C'est, ouais. C'est lui le papa et l'enfant, c'est la Guilde des Explorateurs Marchands. Je préfère largement l'enfant au père, ça c'est clair.
Ouais, ouais. Moi, tu vois, je trouve l'enfant vraiment détestable. Tu vois, père de baf. Non, mettez pas des baffes à votre enfant.
Au contraire, moi je préfère, tu vois, les jeux de placement qui seraient plus les ancêtres. Tu vois, genre El Grande, Maharaja. Tu vois, en plus, je cite que des Kramer.
Ah ben voilà.
J'ai cité Trans-Europa tout à l'heure, tu vois aussi. Alors, Trans-Europa, je crois qu'il arrive. Non, il est arrivé avant aussi.
Medina, tu le mets dans cette zone ou...
Ah ouais, non. Medina, très bien aussi. Tu vois, pourtant, c'est un jeu abstrait, Medina, presque.
Ah oui.
Et je le trouve beaucoup plus intéressant que Kingdom Builder.
Très bien. On se retrouvera pour vous avez peut-être un teaser pour une autre émission de Le Pour et le Contre sur la guilde. En tout cas, que vous ayez aimé notre émission ou non, vous pouvez nous le faire savoir. Il y a donc les commentaires sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeux avec un x. On est aussi sur à peu près tous les réseaux sociaux de la planète sauf TikTok et Threads. On est sur X, sur Facebook, Instagram, Blue Sky, Mastodon. Mais aussi, si vous voulez discuter, c'est peut-être le mieux, c'est peut-être Discord. Si vous voulez rester dans l'histoire, c'est les commentaires. Si vous voulez la force de la discussion instantanée, c'est Discord. Vous trouvez tout ça sur le site. Et ouais, donc parlez de nous autour de vous aussi. Le bouche à bouche, c'est bien, mais le bouche à oreille, pour nous, c'est mieux. Parce que le bouche à bouche, c'est vous dites proxy jeu dans la bouche de quelqu'un d'autre. Pas très utile. Donc voilà, et donc si vous voulez, vous pouvez devenir donateur, donatrice, ça se passe par PayPal ou par virement bancaire, le PayPal est sur notre site, le virement, vous nous contactez. La semaine prochaine, là vous avez vu, le pour et le contre était à ce moment-là, parce que des camarades étaient à Essen, hein, le fameux, donc oui. La semaine prochaine, normalement, vous allez avoir tout sur la hype, sur les jeux dont parleront les influenceurs dans 3 ans, mais découverts par Proxy Jeux il y a 5 ans. Voilà. Et le grand débrief, vous savez qu'ils auront fait chaque soir. Le dernier un peu différé pour leur laisser le temps de se reposer. Normalement, c'est dans une semaine, le débrief des Sun, qui, comme nous l'a dit leur série, est l'émission la plus écoutée. Faites-les mentir. Écoutez plus cet épisode que le débrief. Mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez écouté. Donc, bon, ça ne sert à rien. Réécoutez-le. Bref, on se retrouve dans un prochain épisode de Proxy Jeux, quoi qu'il en soit. Et en attendant, jouez bien.